Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par LAM UA.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Studio 404 pour ce numéro du mois de mars avec mes quatre compères qui ont bravé les giboulées, qui ont bravé les intempéries et qui ont bravé même les petits rayons de soleil, qui sont ici autour de moi donc et de Ghislain, notre réalisateur, pour discuter ensemble de quatre thèmes, quatre chroniques. On parlera d'élégance, de gamification, on parlera de matérialisme dématérialisé et on parlera d'autonomie. Alors voilà, ce sont des mots, des grands mots, mais évidemment je compte sur mes quatre chroniqueurs pour les rendre bien rigolos et bien ludiques à écouter. Et d'ailleurs, je les accueille. Comment ça va les amis? Ça va bien Sylvain?
Ça va super bien.
C'est vrai? Ah, tu me dis que tu avais une voix un peu rauque.
Tout à fait. Trois choses.
Ouais.
Je vais faire comme film. Trois choses. J'ai passé le week-end à l'océan.
Ouais.
C'est le printemps.
On se dit, ça se dit, j'ai passé le week-end à l'océan.
Quand t'es de Saint-Etienne, ouais, j'ai l'impression.
Bah, Saint-Etienne, on dit ça.
Il n'y a pas l'océan.
Il n'y a pas l'océan, faut
bah,
dire.
C'est pour ça.
Ok.
Deuxième chose, c'est le printemps.
Oui.
Et troisième chose, je quitte mon job. Je suis en freelance dans 2 semaines.
Oh là 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 là.
Et grande nouvelle.
Quel courage.
Freelance Sylvain.
Gros ménage de printemps pour toi.
Ah, exactement.
Très bien, très bien. Fibre, est-ce que tu vis autant de révolutions que ton compère?
Alors, le mois de les semaines à venir, on va être très occupés parce que dans le monde du jeu vidéo, il se passe trois choses aussi.
Trois choses. L'océan,
non,
déjà.
Il se passe plein de choses, mais il y a par exemple un salon en Tchécoslovaquie, mais tout le monde s'en fout.
Je croyais que t'allais parler de l'E3, mais en fait, pas du tout.
Ah non, non, bah, moi je suis un indé, malheureusement, je suis un petit.
La Tchécoslovaquie, donc, ça se dit plus depuis 91.
Il y a Resd. Non, mais je peux pas dire. Alors, la capitale de ce pays, c'est Brno. Bruno.
Brno.
Alors que je n'osais pas trop le prononcer. Donc il y a Resd qui se passe à Londres. C'est un peu le gros festival du jeu indé. Si,
ouais,
si vous aimez ça et que vous avez un peu d'argent, allez-y, c'est super cool. Ensuite, il y a moins cool à Évry. Il y a Évry Game. Mais j'y serai.
Et ensuite, comment tu te moques?
Non, mais ensuite, il y a Berlin, il y a Amaze, qui est un peu aussi le salon du jeu alternatif cool. Voilà. Donc c'est trois étapes auxquelles
je vais se faire caler ça en arrivant à Évry. Il va pas comprendre ce qui lui arrive.
Évry, j'arrive.
Mélissa, comment ça va?
Très bien, trois choses.
Trois choses? Pff, vous imposez des trucs, les gars.
C'est le printemps, donc il fait beau. Donc
ça en fait déjà deux ou pas? Ou c'est
non,
juste...
non.
Ah, c'est le printemps.
Il fait bon.
D'accord.
Deuxième chose, je suis on fire. Troisième chose, j'ai couru sous la grêle, voilà, je tenais à le préciser.
Ça veut dire quoi, je suis on fire et c'est le printemps? Ça se... Les deux se...
Ouais. Bah, il fait meilleur, tu sais, t'as envie de quitter tes vêtements.
Ah,
wow, c'est wow. Springtime of love de Mélissa.
Ouais.
Et là, je vois tous les petits cœurs périscopes qui surgissent.
Qui ne sont pas là, qui me manquent.
Daz, trois choses.
Enfin, alors, moins trois une. Choses. J'ai plus de permis.
Enfin, est-ce que tu as déjà eu un permis, en fait?
Alors, pour ça rappel, fait 2 ans et je le savais pas. Voilà.
Pour rappel, Daz, tu t'es rendu compte ce week-end. La police t'a
La police s'est rendu compte qu'en m'arrêtant, que j'avais plus de permis depuis 2 ans. Voilà.
Ben.
Donc, ça a un peu perturbé mon week-end. Mais ça va.
Cette petite marche fait campagne. Pareil, ça
ouais,
fait les jambes
cool,
à ta famille.
C'était cool, l'autoroute est en descente, alors du coup, à pied, c'est très faisable, hein, y a aucun souci.
Bon, ça va alors, t'es bien arrivé.
Oui, oui, tout va bien, je suis piéton, mais tout va bien.
Allez, on va commencer en tout cas avec la toute première chronique, et c'est Sylvain qui va nous parler d'élégance.
Sujet numéro 1.
Troll, selfie, drague, petit guide de l'élégance en toutes circonstances.
Alors, avec ta voix rauque qui sent l'océan et
voilà,
qui sent à l'océan, qui sent le printemps.
Je vais parler de l'élégance à l'océan, en partant au week-end à l'océan.
Alors, l'élégance sur Internet, on l'aura pas précisé, mais on est bien sûr
tout
au courant.
Tout à fait, tout à fait. Et cette chronique n'est pas du tout sponsorisée par le magazine GQ. On a appelé ça la bienséance, le code, la politesse ou parfois même la galanterie. C'est-à-dire une série de règles de bon comportement qui permettent de vivre ensemble en société. Et puis après ça, on a inventé l'élégance. Pour permettre à certaines personnes de sortir du lot, de provoquer l'admiration tout en restant humble, d'inspirer le respect avec panache et de répondre une aura charismatique avec sobriété. Un geste, quelques mots, une démarche, l'élégance. Et effectivement, qui fait vivre GQ depuis 2009. À la découverte d'Internet, nous nous sommes tout à coup retrouvés face à un nouveau territoire d'expression, qu'est l'aubaine pour nous autres nerds, qui n'avions pas forcément réussi à pleinement intégrer les codes de l'élégance IRL. Il soupira en regardant le Fedora et l'impair accroché au porte-manteau, puis il se gratta le collier de barbe distraitement et reprit sa chronique. Chers amis, prenez note car je m'apprête à vous révéler les secrets de l'élégance sur Internet.
Quelle que soit la situation.
Quelle que soit la situation. Petit 1, le selfie. La première règle du Fight Club de l'élégance, c'est la modestie. Impossible, vous allez me dire, de faire cohabiter selfie, narcissique et modestie. Et pourtant, il s'agit d'une des acrobaties les plus fréquentes sur les réseaux sociaux, vous la croisez tout le temps. Une première méthode consiste à dévaloriser le sujet, c'est-à-dire soi-même, dans la légende de la photo. Au réveil, par exemple. Vodka plus rhum, plus jamais. Ou encore même, même le maquillage ne cache plus mes cernes. Vous pensiez vraiment que le hashtag Bad Hair Day avait été créé pour montrer des coupes de cheveux ratées? Allons, allons, vous êtes naïfs. Une seconde méthode consiste à utiliser l'arme de dernier recours de l'internaute, le second degré. Accentuer un duck face, prendre des poses exagérées ou utiliser des accessoires tout en précisant « Devinez quelle blogueuse j'imite ?» ou « Comment vous me trouvez avec ma moustache d'Hitler ?» C'est Internet.
C'est l'élégance.
Tout à fait. Petit 2, les clashs et débats. Internet est une jungle, petit Mowgli. Il va falloir apprendre à te défendre et argumenter au sein de débats violents qu'on appelle des clashs. Est élégant celui qui dit cette terrible phrase qu'on entend très très rarement « Tu as raison ». Non seulement votre adresse.
Tu l'as dit comme une intelligence artificielle.
Ouais, tu sais, mais en fait, je l'ai tapé dans le Twitter search et je l'ai. Enfin, il y en a très peu, ouais. Très très peu. C'est, voilà. Non seulement votre adversaire sera complètement désorienté par cette botte secrète, mais en plus, il en sera humilié. Parce qu'avoir raison, c'est une règle fondatrice sur le réseau des réseaux. Comme le dit l'adage, j'ai pas le temps. Quelqu'un a tort sur Internet. En donnant raison à quelqu'un, vous le mettez hors de lui, car vous lui dites, tu vaux même pas le coup en fait que j'essaye de te convaincre. Du coup, il est salé et vous êtes. Élégant. IRL, cette technique est notamment utilisée avec les enfants qui font des caprices. Et ça, ça les rend fous. Surtout lorsque ce « tu as raison » est accompagné d'un sourire faussement compatissant. Sur Internet, on utilisera le smiley tête en bas, qui est, comme vous le savez, désormais admis comme le symbole universel du sarcasme. Petit 3, stalk et site de rencontre. Une partie très importante de l'élégance. Vous venez de lancer Tinder, Mélissa. C'est un match. Vous vous demandez
vous
alors...
Vous êtes on fire.
Vous êtes on fire. Vous vous demandez alors, comment puis-je être élégant alors que j'ai la dalle de ouf? Comment être Arsène Lupin et pas un frère Raptou? Voici quelques conseils d'ordre général pour ne plus être le balourd de service. Jouez la carte de l'originalité, avec des grandes théories franches et des avis tranchés. En cas de doute, mettez-vous dans la peau d'un membre de Studio 404. Je vous rappelle que 5 membres sur 6 sont en couple. Les statistiques ne mentent pas. Non mais tu vois, les émojis pour moi, c'est un langage numérique universel, c'est l'espéranto. Tout le monde peut se comprendre. Pieuvre, pieuvre, pistolet, émoji rose entre les dents. Originalité, élégance, boum, tu as volé un cœur, Arsène. D'ailleurs, lorsqu'il visite une maison, le gentleman cambrioleur, Arsène Lupin, laisse toujours une rose pour marquer son passage. C'est pareil quand vous stalkez avec élégance. Vous ne vous contentez pas d'un like maladroit sur cet Instagram de 2012. Vous assumez le stalk et vous déposez quelques pétales virtuels dans les commentaires. Petit 4, le féminisme. Eh oui, ça c'est aussi c'est important. Donc messieurs, c'est destiné à vous ce petit conseil. Être élégant, c'est au moins considérer que la femme est l'égale de l'homme. Par contre, ne gâchez pas la sincérité de votre démarche. Arrêtez de crier sur tous les toits que vous êtes féministe. Arrêtez de le mettre dans votre bio Twitter. Parce que ça, ça s'appelle du fragile washing.
C'est comme du fragile washing.
C'est comme du green washing, mais au lieu de faire semblant d'être écolo, vous faites semblant d'être Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Petit 5, et avant-dernière règle, le troll. Et oui, un troll peut être élégant.
C'est dur.
C'est dur. Oui, un troll peut être élégant, et non, ceci n'est pas le titre d'un article de Slate, et voici pourquoi. Les intellos du web répètent à qui veut l'entendre que le troll est nécessaire au bon fonctionnement de la société numérique, que nous on aime bien. La vérité, c'est qu'en fait, on a tous un troll en nous. Donc, autant réaliser cet exercice avec classe et élégance. D'abord, il y a le style. Un troll élégant, c'est un troll qui écrit bien. Ça, je pense que Fibre, ça te parle. Un style bien lyrique, bien ampoulé, vous permettra de mettre en place votre piège, le retournage de cerveau. Le troll élégant est si subtil et adroit qu'il jongle avec plusieurs degrés et niveaux de lecture. La personne qui va être trollée va s'en rendre compte en fait plus tard ou même jamais. Par contre, tous les spectateurs qui auront vu cette joute écrite, ils vont rire de lui et de la manière dont vous l'avez humilié. Vous êtes un petit peu V dans V pour Vendetta, le masque du sourire qui cache une bombe à retardement. Voilà le petit guide de l'élégance. Alors pour conclure ce guide, comme tout bon article à lire, je vous propose un quiz. Voilà, un petit quiz pour vérifier si vous êtes élégant. Petit 1, vous allez pouvoir me répondre. Avez-vous déjà posté sur Instagram un selfie ironique?
Oui.
Oui.
Non.
Daz.
Oh. Bah non, je pose jamais de selfie sur Instagram.
Ouais. Tu veux pas poser
un
petit selfie avec ton permis?
Ouais, bah c'est plus possible.
Petit 2, est-ce que vous êtes déjà moqué de quelqu'un avec tant de subtilité qu'il a d'abord cru que vous étiez d'accord avec lui?
Bah, tous les jours.
Oui.
Toujours?
Tous les jours.
Tous les jours, tous les jours, Daz.
Toujours.
Ok. Avez-vous déjà donné raison à Daz quand il critique Slate?
Non.
Non. Tu devrais, avec élégance, tu lui dirais tu as raison. Attention. Est-ce que vous avez déjà dragué dans les commentaires d'une vieille photo Instagram en expliquant de manière hyper enthousiaste que Elon Musk est votre dieu?
Oh, tiens,
bon. Bon, oui, d'accord.
De qui s'agit-il?
Et attention, une question piège, avez-vous déjà envoyé une dick pic ironique en message privé?
Alors déjà, une dick pic, je crois que j'en ai jamais envoyé.
Sylvain, franchement, ton regard qui regarde le sol, là.
Ironique.
Non, mais pas. Est-ce qu'on peut envoyer sa bite de manière ironique? C'est ça, la question, déjà.
Justement, c'était...
Bah, ta mère, par exemple.
Je voulais vous...
Quoi?
Bah, c'est super ironique, elle l'a déjà vu. Non,
par contre, c'est pas très élégant, ça, dis-moi.
Oui, mais c'est ironique, on cherche l'ironie, là.
Non, mais c'était pas une vraie question, du coup.
Non, maman, en fait, ce que je voulais dire, c'était du troll élégant, en fait, ma bite que je vais t'envoyer par MMS.
Je voulais juste vous laisser quelques secondes pour savourer ce que pourrait être effectivement une dick pic ironique, mais ça fait pas vraiment partie du quiz. J'en ai rajouté après. Donc, si vous récoltez un maximum de oui, donc sauf sur la dernière question, il y a de grandes chances que vous soyez quelqu'un d'élégant. Ou un sale con de snob, en fait. Car la frontière est mince entre l'élégance et l'arrogance.
C'est vrai.
Eh oui, vous pouvez par exemple signaler à cet ami lorsqu'il poste le selfie de trop, expliquer à ce contact Facebook pourquoi il a tort de publier ce même vieux de 3 mois. Vous pouvez troller votre oncle quand il poste un statut qui comporte une erreur de syntaxe et faire tout ça en public pour que la leçon profite à tous. Ce qu'on appelle le public shaming. Exactement comme 90% des tweetos qui pensent être élégants et sont en fait de bêtes internautes prétentieux et donneurs de leçons. Et là, mindfuck, puis-je être élégant si je me permets de donner des leçons d'élégance? Et la réponse est oui, bien sûr, car je le fais au second degré. Smiley tête en bas.
Oh, la méta est trop forte. Tu nous as également retourné. Est-ce que tu nous laisses une rose en partant?
Ah bah là, complètement, il y a des pétales qui flottent partout dans l'air. C'est le je m'en vais dans un écran de fumée.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette petite image de l'élégance, qui en fait, une élégance, comme tu dis, ça, t'es un peu taquin, quoi.
C'est taquin, ouais.
Tu parles beaucoup d'Arsène Lupin qui, effectivement... Il y a une forme d'élégance, mais il y a une forme, comme tu dis, de second degré, de titillage, de choses comme ça, en fait. C'est ça ta vision de la chose.
Ouais, ouais, parce que je pense que pour être élégant sur Internet, il faut être un peu provocateur aussi, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que l'élégance, pour vous, c'est quelque chose de plus premier degré, qui est juste, il faut être magnanime, bien sur soi, etc. Fibre.
Alors, si vous
3 points.
Si vous... Non, j'ai tellement de choses à dire. Surtout, bon, juste une remarque préliminaire et après, il a fait une chronique entière sur l'élégance sans dire une seule fois le mot n'étiquette. Ce qui est bizarre. Non, mais je l'attendais, mais bon.
Donc, pour toi, l'étiquette est liée à l'élégance.
Bah, c'était l'élégance, mais on pourra en parler plus tard. Mais juste par rapport à la chronique précisément, je trouve que Sylvain a à moitié raison.
Ouais.
C'est, pour moi, l'élégance sur Internet, c'est assumer.
D'accord.
Et il le dit, assumer le stalk par exemple, ça c'est vrai, c'est assez classe. Mais par contre, le selfie par exemple, si t'as envie de faire un selfie au premier degré, bah, assume et fais ton selfie au premier degré. D'accord. Et au contraire, c'est le selfie ironique qui manque beaucoup de classe.
D'accord, donc pour toi là, le second degré que Sylvain voyait comme une subtilité, pour toi c'est une manière de pas vraiment assumer la chose, c'est un manque d'élégance.
Quand je vois un selfie ironique, le message que j'interprète c'est, voilà quelqu'un qui avait envie de faire un selfie, donc un peu par narcissisme,
ouais,
mais qui n'osait pas le faire.
Qui l'a pas assumé.
Et donc, voilà, qui essaie de le faire passer, et c'est un peu plus ridicule qu'un vrai selfie. Surtout qu'on est en génération selfie aujourd'hui.
D'accord.
Voilà.
Oh là là, grosse soirée.
On est en
génération selfie.
T'es à l'océan et t'es en génération selfie. Ok, d'accord. Daz.
Ouais, moi j'ai un problème de champ lexical en fait. C'est la différence entre élégance et bienséance. Parce que la netiquette rejoint les règles de bienséance. Et tu peux te comporter correctement sans être élégant.
Tu me trolles là?
Non, je te pose une question. Non, pour de vrai.
T'essaies de me retourner le cerveau?
Pour de vrai, parce que toi, t'as passé un bac littéraire, donc tu vas me dire.
Non, parce que j'ai un bac S.
Merde. Qu'est-ce qu'un bac? Mais non, mais personne a un bac. Ah oui, c'est ça.
Non, on a discuté de ça
dans un littéraire la dernière fois.
On est tous des nerds.
Sauf moi.
Non, mais la netiquette, c'est des règles établies de politesse, effectivement. L'élégance, c'est un supplément pour moi. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas, que tout le monde ne peut pas avoir.
Mais j'avoue que l'idée d'un Twitter où les gens sont hyper polis en disant écoutez, j'ai bien réfléchi et franchement vous avez raison.
Ouais, ça, c'est génial.
Mais ne vous excusez pas monsieur,
et tu vraiment... vois les mecs, tout le monde
voilà,
se vous voit.
Et ce serait les gens d'ailleurs ne le comprendraient pas, c'est-à-dire c'est tellement pas dans la culture, ce serait complètement étranger, mais ce serait très rigolo.
Mélissa, est-ce que tu rejoins la vision de Sylvain de l'élégance?
Mais en fait, il y a un paradoxe pour moi, l'élégance sur internet, c'est genre vraiment être assez discret. Être ouais. Là, et quand t'es là bien, quoi. Tu fais les choses proprement.
T'es comme l'homme le plus intéressant du monde de la bière Dos Equis, c'est I don't always blablabla, but when I do. Je sais pas si tu vois cette fameuse campagne pub, c'est genre, t'es pas toujours là, mais quand tu le fais
à fond, quoi.
Voilà. Alors que là, j'ai l'impression qu'il faut quand même être là un peu souvent, quoi. Dans le sens provocateur, bon, après, je rejoins pas ton truc de féministe fragile washing, je sais pas quoi.
Parce que... Le fragile washing.
Tu as le droit de dire que tu es féministe, Sylvain. C'est pas grave. Il y a des gens qui vont tomber dessus. Tu seras élégant et tu ne leur répondras pas.
Mais en faire sa bannière, est-ce que c'est intéressant?
Ah, enfin un débat qui est
non,
cool.
Non, mais ça, c'est genre...
Alors
tu fais, en gros, pour moi, tu fais ce que tu veux, juste tant que pour moi, l'élégance vraiment sur Internet, c'est de dire les choses proprement assumées, effectivement.
D'accord.
Mais ne pas être dans une posture. À partir du moment où t'es pas vrai, t'es pas élégant, quoi. C'est juste.
Donc, d'une certaine manière, vous êtes, est-ce que vous êtes tous les trois, d'accord pour dire que ce côté un peu second degré ou taquin de Sylvain, ça correspond pas pour vous à l'élégance?
Bah, c'est malin, mais c'est pas élégant, moi, je crois.
C'est pas croquant.
Si,
c'est malin.
Je maintiens pour le fait d'assumer, mais le côté taquin, il se révèle, par exemple, stalker. Et dire à quelqu'un, je suis en train de te stalker, je trouve ça taquin, drôle et hyper
là,
assumé,
voilà,
finalement.
Mais là, c'est le premier degré, assumé, effectivement.
Mais enfin, si t'es un tueur en série, que tu es en train de stalker une personne, tu dis, je suis en train de te stalker, bon, ça file pas. Mais si, effectivement.
Tu peux être un tueur en série élégant, tu sais.
Mais si, en fait, t'es en train de stalker quelqu'un, je sais pas, parce que tu veux l'approcher et que tu lui dis,
ouais.
Bon, je trouve que c'est sympathique.
D'accord. Donc là-dessus, vous êtes plus d'accord. Daz aussi.
Ouais. Moi, j'ai un problème de lexique, du coup, ça m'a niqué complètement le.
Mais est-ce que tu te crois élégant, Daz?
Absolument pas, parce que l'élégance, pour moi, c'est quelque chose de. Tu peux pas le taffer, tu vois, je veux dire, c'est naturel un peu.
Est-ce Donc, naturellement, t'es pas élégant, toi, t'es juste soyeux.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'en fous, et peut-être qu'il y a des gens qui me trouveront élégant et d'autres qui me trouveront pas du tout élégant, parce que ça dépend du public, en fait, à qui tu t'adresses, tu vois.
Ouais.
Et là, comme on parle beaucoup à des provinciaux, je pense que. On n'a pas, et comme il y a quand même deux provinciaux autour
élégant,
de la table.
Par exemple.
Bah, bien sûr que si, pour tous mes amis de région parisienne, je suis ultra élégant.
Est-ce qu'il peut y avoir des débats sur Twitter élégant ou non?
Ouais, non, mais tu vois, enfin, déjà, un débat sur Twitter, on sait que ça finira
pas.
Ce que
tu disais, être hyper poli, franchement, ça serait fou parce qu'on le voit tellement rarement.
Non, ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, je vais le faire, le prochain clash que je vois là, Ah merde, on est déjà lundi, l'indignation. Peut-être qu'il y a mardignation sur Twitter, je sais pas, on verra demain, mais ça serait intéressant de rentrer dans le truc pour dire, vous avez raison, et voilà, et tu t'es barré.
Ou alors, tu m'as convaincu. J'ai changé d'avis, tu m'as fait changer d'avis.
Attends, j'ai pas déroulé tous mes arguments.
Ça, on le tentera ou pas? Vous le tenterez?
Ouais, moi je vais le tenter. Bah, toi, tu pourras jamais sur Twitter parce que ça.
Non, ça je peux pas.
Reply, mais moi je vais le tenter, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et vous, Fibre et Mélissa, vous tenterez ce genre de choses ou pas?
Bien sûr. Cela dit, toi, c'est marrant avec ton cas à l'âme parce que tu réponds jamais, donc t'es pas vraiment trop là.
Oui.
Mais en fait, les gens sont énervés contre toi parce que tu replies pas.
Oui.
Donc. Ça peut pas être considéré comme de l'élégance.
Ah non, je suis pas.
Ah non, c'est de la fiche de putrice.
Non, je pense que
entre dans ta typologie.
Je pense que je tombe dans le snob arrogant dont parlait.
En fait, donc il y en a aucun de nous qui est élégant autour de cette table.
Est-ce qu'on est élégant ou pas, je sais pas.
On pourrait lancer une mode de l'élégance, c'est-à-dire on défie nos auditeurs de sur Twitter dire, écoutez, j'ai bien réfléchi et je pense que vous avez raison. Dès qu'il y a un débat, tu vois, on lance une dynamique.
Il faudrait faire une journée de l'élégance ou alors. Où on se stocke au premier degré, c'est ça? Où on se vouvoie?
Tu sais,
on se dit qu'on a raison.
Tu retweets un tweet de Marine Le Pen et tu dis, écoute, je pense qu'on peut discuter et que, franchement, on peut ajouter de la nuance à tes propos parce que, voilà.
Discontons-en autour d'un café.
Voilà.
On attend de voir. On lancera le défi dans la foulée de l'émission. En tout cas, ça risque d'être intéressant. Allez, on attaque la première FAQ.
FAQ.
Première FAQ posée par Phil Vasquez sur Twitter. @Vasquez_fr. Comment vous expliquez l'uniformité du web design par rapport à la richesse de style du design graphique dans la vraie vie?
Moi,
déjà, pas d'accord,
J'ai une explication au taquet. Je suis au taquet, moi.
Vas-y.
Eh ben, quand un graphiste sort de l'école, s'il est hyper bon, il va faire de l'art contemporain. S'il est un peu moins bon, il va faire de l'identité visuelle.
Ouais.
S'il est un peu moins bon, il va faire de l'illustration. S'il est un peu moins bon, il va faire de la BD. Et s'il commence à être mauvais, il va faire du design graphique dans le web. S'il est vraiment très mauvais, il sera dans le jeu vidéo, tu vois. Donc, il y a pire, hein.
Voilà, Fibre s'est fait des amis, c'était l'édition du mois de mars. Et si en plus, il est provincial.
Ah, mon Dieu.
D'accord, donc Fibre a tapé. Ok, ensuite. Mélissa.
Alors, okay. Je sais pas, parce que du coup, j'ai travaillé avec des gens qui font des sites internet.
Ouais.
Et c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait le problème du web design c'est que c'est une intégration technologie graphisme et ces deux personnes, ces deux métiers ne sont pas encore amoureux l'un de l'autre, ce qui fait que ça donne des frustrations de chaque côté, ce qui fait que ça donne des sites qui sont des compromis géants et donc des trucs pas efficaces.
Tu veux dire que l'intégrateur casse les couilles et nique la maquette du graphiste, quoi?
Non, ton CSS, ça peut aussi être le graphiste.
On veut dire que le graphiste est un sale con qui a aucune idée des ressources matérielles.
À mon avis, il y a un gros problème de formation des graphistes à internet. Enfin, je suis pas allé en école de graphisme donc je sais pas, mais
il y a pas d'école, hein.
Voilà, je pense qu'il y a des gens qui personne ne leur apprend comment faire du graphisme pour des technologies, et ça doit être un vrai problème.
Moi je pense que
d'accord,
Comparativement à la vraie vie, le web est fortement teinté par l'influence que peuvent avoir certains concepts visuels, en tout cas.
C'est-à-dire
que, une fois qu'une marque ou un truc a sorti quelque chose, en fait, tout le monde va vouloir faire exactement la même chose. Tu vois, si tu prends le coup du glossy, là maintenant, on est tous passés en flat design, on sait pas trop pourquoi. Au début, tout le monde trouvait l'interface d'iOS dégueulasse. Maintenant, tout le monde est habitué. En fait, il y a des trends comme ça, il y a des trucs qui deviennent la norme et les gens en fait suivent ça. Et,
plus dans le web design que dans les autres.
Carrément. Carrément.
Tu es d'accord avec Mélissa pour dire qu'il y a quand même le web design demande aussi une forme de pragmatisme, mais de fonctionnalité
Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais.
D'accord. Sylvain, pour finir?
Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un enchaînement de courants et d'influences et de modes. Et effectivement, quand quelqu'un commence à lancer un truc, tout le monde se cale sur la même chose. Aujourd'hui, on fait des sites one page avec un truc, un gros bouton vert en haut. Tout le monde fait ça, quoi.
Ouais.
Et je saurais pas l'expliquer. Je saurais pas te dire pourquoi il y a autant de.
Bah, si. Nous sommes des moutons.
Parce que les graphistes ne sont pas des artistes. C'est tout simplement ça. Là,
oui, mais il y a des artistes qui font des sites internet. Tu vois.
On va se faire des copains. Allez, on attaque la deuxième chronique.
Sujet numéro 2.
J'ai transformé ma vie en jeu vidéo et j'ai grave pris du level.
Mais devinez quelle personne peut tenir ce genre de chronique? Où il gamifie sa vie entière, tout ça pour prendre du level, pour grinder, pour être plus productif. Si vous suivez son Snapchat à base de tableau Excel, vous saurez déjà que c'est Fibre Tigre qui va prendre la parole tout de suite.
Et oui, confidence un peu ma boule, je n'aime pas trop travailler. Mais j'aime bien jouer. Et du coup, j'ai amplement, entre guillemets, gamifié et storytellisé ma vie. Donc ma to-do list, comme on vient de le dire, c'est un Excel qui donne un score à mes journées. À la fin de la journée, j'ai 9 sur 10, voilà, où j'ai une note. Et quand j'ai une mauvaise note, je ne suis pas très content. Pour me motiver à faire du sport, j'ai fait un logiciel qui me fait vivre des aventures à chaque étape d'un parcours virtuel. Je considère mon networking professionnel comme un MMO. Exactement, où le nombre de contacts serait un score. Et je range les cartes de visite de mes contacts dans des anciens classeurs de cartes Magic. Donc, on est dans la reconversion. Donc, j'ai pas pu tout gamifier, malheureusement. J'ai échoué à gamifier mes repas. C'est une vraie problématique que je me pose. Mais il existe des solutions de gamification. Par exemple, le fameux Weight Watchers, ils ont une application qui est en fait de la gamification de repas parce qu'ils associent un score à de typologie de nourriture et tu as un score que tu dois atteindre mais pas dépasser. C'est-à-dire tu peux pas manger moins ni plus.
Ah ouais, c'est compliqué.
Par exemple, une chips, ça vaut 3 points.
Ouais.
Dans une journée où tu as 15 points, si tu manges des chips, si tu manges un peu de chips, c'est déjà un gros truc, quoi.
Ça va très vite.
Voilà. Donc, face à ça, question, quelle est la frontière entre le travail et le jeu? Prenons Daz. Daz.
Oui, prenez-moi.
Il fait sa journée dans une immense boîte de transport logistique. Il rentre chez lui, il expédie quelques obligations familiales, parce qu'il faut bien, et il joue à Elite, où il fait du transport logistique dans les étoiles. Quelle est la frontière entre le travail et le jeu?
En fait, t'es un joueur de PC allemand, Dave.
Putain, si seulement je pouvais gagner de la thune avec ça.
Par quel miracle faire de la saisie comptable est contraignant, alors que aligner des bonbons sans fin pendant des heures dans Candy Crush Saga est une activité amusante, voire addictive?
C'est vrai.
Dans le fond, c'est la même profondeur de travail, à part que dans le cas du jeu, l'action et le feedback, donc le retour que tu as, exactement, ça a été savamment déguisé pour te donner du plaisir. Fort de ce constat, on pourrait songer à réduire la pénibilité de tout travail en le gamifiant, en le rendant jeu. On va vers cela tout doucement, même s'il y a une barrière psychologique, et là on va en parler plusieurs fois, qui consiste à considérer qu'on souille la sacrée du travail par la futilité du jeu. Et cette barrière, elle est très importante. Aujourd'hui, on va dire judéo-chrétien, on veut souffrir au travail pour lui donner de l'importance. Donc, dans cette chronique qui est prospectiviste, exploratoire, je vous propose d'imaginer le principe parallèle. On part d'un jeu pur, comme Candy Crush ou Final Fantasy, et on essaye, peut-être à son insu, à cause de la barrière, d'imaginer être en train de travailler pour une société, être productif. Donc, avançons vers cette situation utopique en trois étapes. Le chiffre 3 domine le Studio 404 c'est aujourd'hui.
Trois étapes.
Première étape, jouer et être productif sur des sujets arides, ça existe déjà. Ça s'appelle par exemple Foldit, dont le slogan est « Résolver des énigmes pour faire progresser la science » et qui permet, via un puzzle en 3D, de chercher et éventuellement de trouver toutes les configurations 3D de certaines protéines. Donc ça existe vraiment.
Ça existe.
Vous jouez et vous faites avancer la science. Vous n'êtes pas payé pour ça.
Ah, ça c'est chiant.
Deuxième étape, travestir la réalité avec le masque du jeu. Donc là, on commence à rentrer dans la fiction, ou peut-être pas. conspiration, beaucoup de jeux sont des simulations de principes réels. Par exemple, des principes économiques si réels, je pense à EVE Online, qui génèrent une économie réelle en interne. Pourquoi laisser ces jeux et cette économie au seul domaine de la fiction ? Imaginons, donc dans le monde réel, une interface logistique pour transporter des conteneurs de fret. Si je renomme Dunkerque en Tosseti, Düsseldorf en Altaïr, conteneur d'ampoules usagées en canister de palladium et interface de fret Cogip en Elite Dangerous. Imaginons que je rajoute quelques pirates de l'espace pour donner de l'action, une séquence d'atterrissage manuelle palpitante. Vous ne pensez pas que Daz et ses petits copains vont passer des nuits blanches à trouver, gratuitement, la route parfaite pour acheminer ces ampoules usagées ?
Eh oui, c'est vrai ça. Daz, il est en train de lever, on sent. Il lève les yeux au ciel, il fait pas con.
Troisième étape, créer un jeu pur. Donc là, on est dans un jeu pur Final Fantasy qui ne soit que travail. Donc allons plus loin. Imaginons un jeu vidéo qui a toutes les apparences d'un jeu classique, mais dont chaque action du joueur est un élément productif à son insu. C'est-à-dire qu'entre le guerrier qui tue du dragon et la vérification d'une fiche d'impôt, il y a une série d'interfaces cachées qui font que quand vous faites l'un, en fait, vous faites l'autre.
Il y a intérêt à avoir des bonnes interfaces pour que l'un...
Alors oui, il y a des années de recherche en game design pour faire ce lien, mais on va dire, quand on abstrait les deux cas, tuer un dragon ou vérifier qu'une fiche d'impôt est bien remplie, on a strictement le même cadre. On a un objectif, on a un pattern à respecter, on a une situation de victoire ou de défaite. Et si la fiche a mal été remplie, on n'a pas tué le dragon, donc on est obligé de recommencer à tuer le même dragon. Et on passe au prochain dragon, une fois que le dragon est tué, et on va être un super tueur de dragon. Et voilà. Alors... avant de se lancer dans ce défi, il reste des barrières qui sont d'ordre psychologique. Et je les ai formulées sous forme de questions pour qu'on puisse tous en discuter et éventuellement nos auditeurs participent à ce grand débat.
C'est pas la barrière dont tu parlais plus tôt dans ta chronique.
Voilà, qui est
le travail c'est sacré, on peut pas le salir avec des jeux.
Finalement, le fait qu'on souffre un peu au travail, c'est pas mal. Donc ces questions, première question, c'est si ces jeux existaient, est-ce que vous les achèteriez ? Accepteriez-vous d'être payé pour jouer à ces jeux ?
Mais tellement.
Prendriez-vous un plaisir identique alors que votre séance ludique profite à une société ou à la société ? Considérez-vous un loisir comme tel s'il est productif à votre insu ? Est-ce que ces jeux ne deviendront pas un travail s'il n'y a pas de travail contraignant à côté ?
Ah oui, c'est vrai.
Est-ce que le loisir peut exister sans non-loisir ? C'est-à-dire, si on vit une vie que de loisir, est-ce que... voilà.
C'est le fameux, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'école.
Dans cette utopie, est-ce que les futurs tricheurs auront une responsabilité juridique ? Parce que quand vous faites un shortcut pour vos conteneurs de fret, peut-être qu'ils vont arriver dans l'océan Atlantique. Est-ce qu'on acceptera de vivre sans avoir un métier ? Grande question 2.0. Est-ce que la classe ouvrière sera la classe des joueurs ? Et est-ce qu'ils rêveront pas un jour d'avoir les moyens de ne plus jouer ?
Oh. Voilà. Alors c'est la même chute que pour Sylvain, ça devient méta à la fin. Hein. Wow. Ça devient méta où vous nous bouclez un peu les cerveaux là.
Oui, voilà. Donc pour résumer, en gros, on pourrait aller vers ça.
Ouais.
Et donc il y a effectivement beaucoup de travail technique derrière, mais il y a des questions psychologiques. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent être dans un bureau, ils veulent avoir des collègues, même des collègues relous. Ils veulent souffrir un petit peu au travail et l'idée d'un jeu perpétuel, c'est quelque chose qui est pas si séduisant au final.
C'est vrai que c'est intéressant. Comme on disait, le jeu se met en valeur parce que c'est une période qui sépare le travail.
Il y a des jeux qui te font souffrir quand même. Je veux dire, le grind dans les MMORPG ou dans n'importe quel jeu.
Ce qui est bizarroïde, c'est que t'es pas payé pour faire ça. Tu souffres plus que quand tu remplis des fiches d'impôts.
Et tu sais que quand je fais ça, justement, je me dis quand je suis devant mon écran, putain, mais je suis même pas payé pour faire ça et c'est super chiant. Quoi.
Attends, tu te le dis littéralement, Das, du coup.
Ah bah dans Elite, carrément, quand t'es obligé de grinder pendant 3h30 pour t'offrir un truc, tu dis putain, je pense que je fais ça alors que je suis pas payé. Temps normal, ça c'est minimum du 150€
de l'heure. Mais pourquoi tu le fais ?
Hein ?
Pourquoi tu le fais ?
Parce que c'est le but derrière. Tu vois, c'est le grand objectif.
Qui est d'avoir un vaisseau plus gros.
un vaisseau plus gros ou des meilleurs lasers pour allumer plein de gens qui viennent d'arriver.
Est-ce que tu travaillerais plus à ton travail si on te promettait un plus gros vaisseau sur Elite ?
Un plus gros salaire, oui.
Pour acheter une voiture dans la vraie vie.
Non, mais, par exemple, la simulation, le cas qu'a présenté Fibre dans ta chronique qui t'était dédiée, Daz, du coup, est-ce que si ton interface de travail, de gestion de processus de fret, etc., ressemblait à un jeu, ressemblait à Elite, est-ce que ça te donnerait plus envie de travailler ou est-ce que comme on conclut c'est... Fibre, ça t'embêterait un peu de finalement plus faire la différence entre un jeu et un...
Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que mon travail, c'est pas ça, déjà, donc, tu vois, c'est un peu...
Bon, oui, d'accord, mais imagine, mec.
C'est, enfin, je veux dire, le...
Tu joues quand même des simulateurs de dock, de portuaire, quand même, tu
je
vois.
Joue à des, je joue à des... Oui, d'ailleurs, je cherche Ports of Call, si vous savez comment jouer à Ports of Call sur PC.
Bah, il est disponible pour 20$.
C'est vrai?
Mais oui.
Ah, c'est 20$ trop cher. Mais, quelle était la question?
Tu joueras ça ou pas? Est-ce que tu joues? Est-ce que si ton boulot était déguisé en jeu vidéo, est-ce que tu jouerais?
Ouais, mais encore une fois, je pense que mon boulot pour sa partie la plus opérationnelle est déjà super intéressante en tant que tel, donc c'est déjà un jeu en soi, quoi. Tu vois.
Est-ce que peut-être la moralité de l'histoire, c'est aussi des gens qui s'aperçoivent qu'ils aiment leur travail, en fait.
Ouais.
Ils aiment le travail.
Et est-ce qu'il faut aimer, pour aimer son travail, est-ce qu'il faut le voir comme un jeu? Parce que toi, c'est ce que tu fais.
Ouais. Est-ce que vous êtes dans le cas de Fibre? Parce que parfois, quand vous avez des choses, enfin, on parle de travail, de paperasse, de choses qui peuvent vous sembler pénibles à un certain moment, est-ce que vous trouvez un moyen de mentalement le déguiser ou de trouver un truc genre bon, j'en fais 5 par 5 ou je fais ça ou je fais ça, enfin, de créer en fait des sortes de mécaniques ludiques pour faire passer de la pilule?
En fait, c'est très dur de transformer quelque chose véritablement en jeu. D'ailleurs, mettre des scores sur des tâches Excel, c'est pas un jeu, Fibre. Ça s'appelle de la pointification, mais c'est pas de la gamification. Je suis désolé de te dire ça, mais bon, c'est pas un jeu.
Les freelances dans 2 semaines, il est tendu là. Faut utiliser les bons mots.
Il fait du Excel shaming.
C'est le printemps, là. Excel shaming. Et en fait, par contre, je suis absolument d'accord avec toi sur la barrière psychologique de se dire que si on rend le travail trop ludique, au bout d'un moment, on considère plus que c'est du travail, on va plus prendre le même plaisir ou ce genre de choses.
C'est-à-dire qu'en fait, le travail va reprendre ses droits sur le jeu, en fait.
Ouais, exactement. C'est
que est-ce que le jeu est censé être, enfin, le loisir, on va dire en général, est censé être une alternative à notre routine et pas notre routine?
Bah, le jeu existe parce que le travail existe. C'est ouais. ce que tu
et
dis.
Et toi
fin.
Qui es dans l'e-sport, ouais, tu pourrais nous en parler?
Comment les mecs le vivent, parce que toute la journée
Mais l'e-sport après c'est exactement comme du sport, donc ce sont des gens qui effectivement leur job c'est de jouer, mais après là l'e-sportif comme le sportif ou le joueur d'échecs ou le joueur de poker, c'est la même chose, c'est que ils sont dans une discipline ludique et ils en ont fait leur métier, donc ouais. ça c'est quelque chose qui à mon avis ne change pas. Après la question c'est, est-ce que moi qui suis un, comment il s'appelait, c'est quoi ce syndrome quand on déteste les paperasses? Il y avait le ministre qui payait pas.
Non, mais la phobie administrative, il y a pas de mot
mais
particulier.
Ça, la phobie. Bah, moi, ça ferait rigoler de me dire effectivement, il y a un jeu qui me fait rentrer des chiffres, des machins et tout, et que c'est rigolo et que je prends du level.
T'aurais pas l'impression d'être pris un peu pour un golemon en fait
Si. Mais est-ce qu'on est spécialement,
mais en vrai, il aurait payé ses factures.
Voilà. Et puis est-ce qu'on est spécialement épanoui ou plus intelligent ou important quand on fait des choses comme payer tes amendes ou des choses comme ça? Non, de toute façon, je me considère pas à ce moment-là comme valorisé dans ma vie, donc je me dis.
Non, mais te dire, je sais pas, moi perso, un truc comme ça, quand c'est chiant, je le fais pas. Donc typiquement, la déclaration d'impôt, je fais comme tous les gens. C'est-à-dire que j'attaque le dernier jour, au dernier moment, là, juste avant minuit.
Mais quand tu l'as fait, est-ce que t'as pas un peu la win de comme quand t'as joué dans un jeu vidéo?
Non, parce qu'en fait, ils ont quand même vachement simplifié le truc, tu vois. Maintenant, tu fais suivant.
Ça reste une épreuve parce que t'as pas envie de t'y mettre. Mélissa,
elle a un point intéressant.
Parce que moi, je fonctionne à ça, quoi.
Toi, est-ce que tu veux
être. Je suis trop contente, je suis alors, c'est bon, je l'ai fait.
Mais c'est le truc à rayer sur ta to-do list, quoi. C'est ça.
Donc, ce qu'on appelle les achievements dans les jeux, est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi, t'arrives en tout cas à poser à d'autres choses de ta vie?
Je fonctionne que pour ça. C'est-à-dire que je gamifie pas tant le truc que je vais vers un but, quoi. C'est genre, j'ai fait 10 km, j'ai atteint toutes mes tâches de la journée. Enfin, je pense pas, tu vois, je fais pas de tableau Excel, je compte pas mes points, mais à la fin de la journée, je suis alors, ouais, grave.
Ah.
j'ai fait tout ça.
Pour rebondir sur ce que Mélissa vient de nous dire, qui est très intéressant, il y a une des grosses tendances qui sont devenues les moteurs de jeu, ce sont les jeux sociaux et les outils sociaux des jeux qui font que quand on a atteint un certain niveau, on reçoit des notifications pour dire ah bah t'as atteint le niveau 372, mais Daz en est au 487 ou un tel fait ça. Est-ce que vous mettre en compétition sur des tâches du quotidien, ce serait une manière de gamifier, mais aussi de vous motiver à gérer ça, Fibre?
Alors je l'ai réfléchi.
Ouais.
Je suis resté à la pointification et non pas à la gamification, pour reprendre le terme de Sylvain, pour la raison suivante, c'est que je me suis dit j'ai qu'à sur-gamifier mon travail, c'est-à-dire que toutes les tâches, je leur donne des petites races, genre c'est des orques, des titans, et moi je les tue avec une épée, je gagne des points d'expérience, tout ça. C'était simple à faire, mais en fait ça sert à rien, parce que c'est un peu comme les joueurs d'échecs. Mm-hmm. Au début ils jouent avec des pions en bois, puis après ils jouent avec et après ils jouent carrément mentalement.
C'est l'abstraction,
le truc.
C'est l'abstraction.
Voilà, on va vers l'abstraction et on a autant de plaisir en fait à la fin.
D'accord. Donc en fait le gamifier des tâches, c'est pas forcément leur donner une apparence, Ça montre, c'est plus un état d'esprit qu'autre chose.
Plus un état d'esprit, ouais.
Sylvain, ouais,
c'est
ça.
Voir les situations comme des jeux, quoi.
Mais même, je dois vous dire, je storytell, enfin, je fais ça sur Snapchat parfois quand j'ai vraiment un truc hyper relou pendant 4 heures à faire.
Ouais.
Ce que je fais, c'est je dis, je considère que je vais monter l'Everest. Je me mets même une chapka, je me filme et tout. Je dis, voilà, je suis au camp de base, je comprends rien, je sais pas comment je vais faire.
Je me fais des enjeux du rodois, je les mets au congélo pendant un quart d'heure.
Je suis, Michael m'a lâché, donc je suis le seul à monter. Voilà, j'ai fait 1000 mètres, c'est bon, je vais y arriver et tout. Et là, 23 heures, bah écoutez, j'ai pas réussi à le faire. Voilà, tant pis, c'est un échec,
Même le fait que tu le fasses sur Snapchat, que tu racontes que tu travailles sur Snapchat, c'est déjà un moyen d'entrer dans un jeu de genre, je vais prouver aux gens qui m'écoutent que j'ai réussi à faire ça aujourd'hui et c'est un peu, c'était encore plus content, quoi.
Ouais, mais des fois, je n'y arrive pas, voilà. Mais je suis transparent.
Du coup, tu fais des asymptotes à la réalité.
Mais du coup, quand tu n'y arrives pas, tu prends ça vraiment comme un échec ou... Parce que si tu gamifies pas le truc, quand tu fais pas ce que tu devais faire, tu fais bon, je le ferai demain, tu vois.
J'ai organisé ma vie pour qu'en gros, j'y arrive. Mais effectivement, si j'ai des journées. Tu sais, ça fait hyper peur. Hein. Quand j'ai des journées, je peux rien faire. Tout est rouge sur une ligne. Et ça se reporte, il y a du rouge partout. Et là, tu te dis, ma vie, ça va pas bien, là. Voilà.
Donc visuellement, tu as quelque chose.
Ouais, bien sûr.
C'est pas vrai.
Je pense que sur l'idée de transformer par exemple la complétion de ta fiche d'impôt en Dragon Slayer là, je pense pas que ce soit possible en fait, parce que je pense pas que ce soit possible de le transformer vraiment en jeu. Tu peux le transformer dans un truc un petit peu divertissant qui est on place les dragons par des fiches d'impôt, mais pas en vrai jeu, c'est-à-dire un jeu où tu peux perdre, un jeu où t'as plusieurs choix pour arriver à battre quelque chose, où tu peux choisir plusieurs armes, ou tu peux le faire différemment.
Sur la question technique.
Bah sur la question du game design en fait.
Il n'y a qu'un seul but en fait possible.
Remplir une fiche d'impôt, c'est une procédure, tu vois. Donc en fait, il n'y a qu'une seule façon de le faire.
Mais tu tiens un dragon, c'est appuyer sur un QTE.
Parce que
là, il faut retrouver.
C'est bon, ça.
Mais il a fait un autre air.
Attends, je vais pas dire, mais grinder à Final Fantasy, ou Dangerous, c'est aussi.
Compare pas Final Fantasy à Elite Dangerous, s'il te plaît, n'insultons pas.
Bon, en tout cas, Final Fantasy, ça se vend bien et c'est un QTE, quoi. Donc voilà.
J'ai hâte de savoir, parce que parmi nos auditeurs, il y aura quand même des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, qui sont passionnés de jeux vidéo. J'ai hâte de voir s'ils auront des suggestions sur des mécaniques qu'on pourrait mettre en place, des applications.
Oui.
Gameo.
Ludéo.
Ludéo.
Ludéo, ça existe, je crois. Il y a un tweetos qui nous l'a envoyé, je crois.
Alors, on attend, chers auditeurs, de savoir si vous aurez des suggestions pour transformer votre vie en jeu et, en tout cas, si vous irez aussi loin que Fibre. Allez, on attaque la deuxième FAQ.
FAQ.
Une question de Fred. Tout simplement. Mais la question me paraît étrange parce qu'elle me paraît évidente. Forcément, il y a un piège ou alors c'est un homme très élégant qui essaie de nous piéger avec du second degré. Pourquoi sommes-nous moins tolérants pour les idiots sur Internet que pour les gens qui nous entourent ?
Sommes-nous moins tolérants pour les idiots sur Internet
que pour les gens qui nous entourent ?
Il est fou, lui.
Ça me paraît évident, non ?
C'est totalement faux. En plus, moi, j'arrête pas de bâcher ma famille.
et tu câlines les idiots sur Internet ?
Non plus, mais en fait, je les traite d'égal à égal. En fait.
C'est vrai. C'est vrai que face à Daz, tout le monde est égal.
Tout le monde est un golemon.
C'est dur.
Alors, j'ai une théorie troll auquel je ne souscris pas.
La question est un peu troll. Attention.
Parce qu'elle est d'actualité, malheureusement, c'est l'indignation kilométrique.
Ouais.
C'est-à-dire que.
J'aime ce concept.
C'est qu'effectivement la personne de ta famille, elle est à côté de toi, donc elle t'indigne plus facilement que le...
Oui, mais lui reprochait qu'on soit plus dur avec les gens sur Internet.
Ah,
c'est pour ça qui est évident. C'est pourquoi sommes-nous moins tolérants pour les idiots sur Internet que pour les gens qui nous entourent. Mais la réponse me paraît évidente, mais c'est pour ça qu'il y a un piège.
Ils y mettent forcément moins les formes, donc t'as pas envie de mettre les formes non plus, quoi. Tu les connais pas, donc t'as pas besoin d'avoir le.
Bah voilà, c'est ça le truc.
Oui, mais on pourrait justement
toujours
mettre les formes.
Le pacte nécessaire.
Peut-être qu'on pourrait. Peut-être que justement, ce qu'il dit, c'est qu'on pourrait être plus poli avec des gens qu'on connaît pas qu'avec les gens qu'on connaît. Et que là, en fait, on est plus dur avec des gens qu'on connaît pas qu'avec des gens qu'on connaît. C'est peut-être ça le sens de la question et de la vie. Sylvain ?
Non, mais moi je suis d'accord avec vous tous, c'est-à-dire que.
C'est-à-dire que cette question est.
C'est-à-dire qu'on fait preuve de plus de politesse avec nos proches parce qu'on les connaît et qu'on sait qu'ils vont avoir une image négative de nous si on le fait pas.
Donc la grande famille
de l'internet. L'inconnu sur Twitter, tu peux l'insulter.
C'est encore l'inverse là, c'est encore on est plus tolérants vis-à-vis des idiots.
Sylvain, t'es dans le bon sens. Pourquoi sommes-nous moins tolérants pour les idiots sur Internet que pour les gens qui nous entourent, ou je te le redis dans le bon sens, pourquoi sommes-nous plus tolérants avec nos proches qu'avec des inconnus
sur
Internet?
Pourquoi tu bâches sur Internet et tu bâches pas tes proches qui disent de la merde?
C'est l'inverse, mais bon.
Oh là là.
Ah, donc voilà, donc toi, Philippe, c'est l'inverse.
Parce que lui, c'est du travail, donc il est obligé de prendre.
Toi, tu bâches plus facilement tes proches que les inconnus sur Internet.
Ça rapporte pas d'argent.
Chaque internaute est un client potentiel.
Est un prospect.
C'est vrai qu'il y a ton image déjà, et en plus, être exigeant, c'est parfois une forme d'amitié.
D'accord.
Comment il s'en sort bien.
Putain, pirouette.
Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mélissa, question.
Non, mais il y a un vrai problème, c'est qu'on parle en texte et il y a pas le contexte qu'on a avec nos proches. Et ouais. Du coup, on s'énerve beaucoup plus vite. Moi, je me prends souvent à m'énerver sur des tweets, alors qu'en fait, la personne, son argument peut être valide, mais juste.
C'est le même syndrome que quand t'es en voiture et que la personne en face, c'est qu'il y a un con dans sa voiture et qu'il a l'immatriculation et un klaxon.
Voilà.
D'accord. On s'est pas fait piéger, Fred, par cette question. Allez, on attaque tout de suite le troisième sujet.
Sujet numéro 3.
La caravane technologique passe, l'autonomie est aux abois.
T'as vu ce petit titre que je t'ai confectionné avec amour ?
C'est beau, c'est beau.
C'est du fait main.
Alors ça fera... Oui, on va parler donc de l'autonomie.
De l'autonomie. Voilà. De l'autonomie de nos appareils en général. Hein.
En général.
Ouais, on parle pas de l'autonomie de la Corée du Nord par rapport à...
Non. Sauf si elle marche sur batterie, mais je... Ça fera bientôt 10 ans que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Ça fera bientôt 10 ans que l'iPhone a amené le grand public, donc vous, auditeurs lambda, mais aussi et surtout votre famille, y compris votre oncle idiot là, à utiliser donc des smartphones. Oui, je sais, utilisateur de Symbian, votre OS existait bien avant, mais votre OS, c'était de la merde. Putain, 10 ans. 10 ans de soumission à une idée, une théorie. La théorie du smartphone. Vous ne la connaissez pas, vraiment, cette théorie révolutionnaire formulée par les plus grands cerveaux du monde entier ? En voici les grandes lignes. Ouais, on rigole.
La puissance.
Mais Rof fait vraiment des smartphones, les gars. Et oui, la puissance. All-in sur la puissance, on met tout sur la puissance depuis 10 ans. Alors depuis 10 ans, l'industrie empile les processeurs, l'industrie empile les mégapixels, les gigahertz et les gigaoctets, fait rentrer tout ça au chausse-pied dans des appareils toujours plus fins. Les lois de la physique ayant encore cours sur cette planète, il faut bien trancher quelque part. Et quand il s'agit de faire de la place, l'autonomie, c'est un peu la grand-mère qu'on oublie à la station-service sur la route des vacances. Alors depuis 10 ans, une routine rythme votre quotidien. Téléphone, prise, câble, branche. La même rengaine, une fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an, pendant 10 ans. L'enfer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mais je vous l'annonce ici, ce sujet va devenir une grande cause technologique d'ici à 2020. Parole.
Parole.
Parce que ça y est, les gars, la lune de miel est passée, votre smartphone vous géolocalise, vous quantify de selfies, vous périscopise ou vous plan QIs, mais votre smartphone ne tient pas à la charge plus d'une putain de journée, et ça, c'est plus possible. Une pub Pirelli disait « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Bah, grande nouvelle, sans batterie, c'est pareil. D'ailleurs, petit test hein, pour savoir si vos amis sont sincères ou s'ils vous mentent. En soirée après le boulot, demandez-leur de vous dire combien de batterie il leur reste. Si le chiffre est supérieur à 22%, ils vivent une double vie. Et là, je sais que des auditeurs se disent « Ouais, n'importe quoi, ce pote, ça peut tout simplement être quelqu'un de prévoyant et qui a un chargeur à la maison, dans la voiture, au bureau et dans le RER. » Et c'est précisément là que je veux en venir.
Eh oui.
La prévoyance. Parce qu'on nous rabâche sans cesse que la technologie nous a tous rendus un peu plus cons. On ne retient plus d'itinéraire, on ne retient plus de numéro de téléphone, ouin. Mais la technologie, grâce à l'autonomie ridicule de nos appareils, nous a permis de développer de nouvelles compétences. La prévoyance en est une. On optimise sa journée et ses déplacements en fonction d'une variable booléenne simple, à savoir la présence ou non d'un moyen de charger sa batterie à destination. Sylvain, ici présent, le disait déjà au mois de novembre. Quand il s'installe dans un resto, il repère les prises de courant avant les issues de secours. Sylvain est idiot, certes, mais reste le fruit de son époque.
C'est le Jason Bourne du pauvre.
Voilà, ça reste.
Il y a trois prises.
Ça reste le fruit de son époque. Hein. Il est bête, mais c'est comme ça. Cette époque de l'Internet of Things, où la moindre bouilloire communique en Bluetooth avec votre smartphone, pardon, mais où chaque nuit passée hors de son domicile implique un sac dédié au chargeur et au câble pour ne pas tomber en rade au bout de 12 heures. On en est là. Hein.
Ouais.
La technologie n'est plus à un paradoxe près. Regardez les voitures électriques. Une marque comme Tesla offre des performances de Ferrari, l'habilité d'une Mercedes et l'autonomie ridicule d'une 2 chevaux. Qui peut réellement être intéressé par l'achat d'une grande routière qui ne peut pas faire de grands trajets? Mais je suis mauvaise langue. Depuis
c'est vrai?
Oui, un petit peu. Un petit peu quand même, mais je le reconnais.
C'est l'élégance.
C'est ça l'élégance. Depuis quelques années, on s'habitue à croiser des chargeurs rapides et autres batteries de secours proposées dans les kits de survie, à côté de la pierre à feu et du couteau multifonction. L'objectif est louable, mais il s'attaque au problème de l'autonomie de la même manière que si on s'attaquait à la sécurité routière, ou en tout cas au problème de l'insécurité routière, en faisant des routes en chamallow.
Ah, carrément.
Genre, désolé, on a fait tout ce qu'on a pu sur les voitures et les conducteurs, alors maintenant on va faire des routes en chamallow parce qu'on n'arrive pas. Voilà. Qui se contenterait d'une réponse pareille ? Pourtant, quand il s'agit de l'autonomie de nos objets, ça passe. Les batteries de nos portables tiennent une journée, mais en fait, c'est plus dû à tout ce qu'il y a autour qu'à la batterie en elle-même. Hein, c'est plus simple, en fait, et c'est ça qui est assez incroyable de se dire, c'est que c'est plus simple de graver des processeurs de façon toujours plus fine pour réduire leur consommation énergétique que d'essayer de juste faire des batteries
plus performantes,
qui tiennent plus la charge. Voilà. Donc, je vous le redis, l'autonomie sera le combat des années à venir. Déjà parce que la loi de Moore, celle qui stipule que la puissance des CPU double tous les 18 mois, est en train de ralentir, ce qui va peut-être permettre aux batteries... Ah, pas mal. Ah, la loi de Moore est en train de mourir. T'écrirais pas des jeux vidéo, toi? Pas que ça, d'ailleurs. Donc cette loi est en train de ralentir, ce qui sous-entend que on va peut-être permettre aux fabricants de batteries de rattraper un peu leur retard. Et puis surtout maintenant que les usages sont défrichés, les utilisateurs, donc vous, moi, tout le monde, on va commencer à intégrer la notion d'autonomie dans l'acte d'achat. Et on préférera peut-être un téléphone un peu moins puissant, mais qui justement permet de durer 2 ou 3 jours plutôt que...
On en parlera après ça, mais je suis pas sûr.
Non plus. Ouais, parce que vous ne croyez en rien. Gardons tout de même une image positive de ce début de siècle. Pour quelques années encore, les professeurs vont avoir le droit aux excuses en boîte cagette de leurs élèves. Entre « j'ai pas chargé mon chien, donc il n'a pas sonné » et « mon lit n'avait plus de piles ». Donc les carnets de correspondance, s'ils existent encore, vont être agréables à lire au moins jusqu'en 2020.
S'il y a la batterie.
S'il y a de la batterie, oui.
Dans ton cas, correspondance. Est-ce que vous êtes d'accord avec Daz? Alors il y aurait un point à débattre, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Daz sur le fait que cette autonomie, effectivement, dans les faits en tout cas, n'a pas évolué depuis des années? C'est chaque jour, chaque soir, on rentre et on est obligé de se brancher. Et on est un peu, on a un fil à la patte, littéralement, quoi. Mais Daz, par la moment d'un kit de survie, il y avait les baisses en ville, et maintenant, on a carrément des charges en ville dès qu'on part plus de 2 jours.
Toi-même, tu nous as dit que c'était un frein à la commercialisation des montres connectées.
Oui, moi, c'est débile, mais une montre que je dois charger tous les soirs, par exemple, une montre qui est censée...
C'est ultra chiant.
Une montre qui est censée, par exemple, noter ta qualité de sommeil, mais que tu ne peux pas utiliser la nuit parce que sinon t'as plus de batterie le matin, c'est absolument débile, effectivement.
Et ça existe, pourtant.
Daz, tu parlais des smartphones, on parle de quasiment tous les objets technologiques autonomes.
Oui. C'est clair que quand tu pars en week-end et que tu prends ton appareil photo, ton ordi, ton téléphone, en fait, tu te retrouves avec plus de câbles que de slip, quoi. Ouais. Tu vois, c'est problématique.
Il y a les fameux, maintenant, pas les sacs à chargeur, mais les sortes de pochettes à chargeur un peu. À
si
câble.
Tu l'as oublié, t'es très mal, quoi. Putain. T'as une petite goutte sur le fond, genre, oh mon dieu, comment je vais faire?
Qu'est-ce que vous faites quand vous partez justement hors de... On se croit à l'époque des bebop, hors de portée d'une station de chargement, et que vous n'êtes pas sûr d'avoir un chargeur. Vous achetez des batteries supplémentaires dont on parlait d'AS, qui sont effectivement une sorte de solution et de mot de notre époque, ou vous priez pour qu'il y ait une prise quelque part ou...
Déjà, j'organise ma journée pour que quand je quitte chez moi, mon téléphone soit à 100%.
D'accord.
Voilà, donc non, mais
c'est moi, c'est pareil.
Parce que de toute façon, comme je Snapchat, j'utilise Runkeeper pour mes trajets et qu'en plus je fais des périscopes comme ça, c'est sûr, là, je vais rentrer, le téléphone sera à 20% alors que je suis sorti 3 heures, tu vois.
Donc en fait, tu fais des sortes de sauts, des petits sauts de puce, et à chaque fois, tu recharges, quoi.
Ouais, mais.
Toutes les 2 heures, une pause s'impose, quoi, comme sur l'autoroute.
À la fois, je suis un peu d'accord avec Daz parce que c'est incroyable qu'on ait très peu d'autonomie et on se laisse faire, on n'est pas exigeant sur la question. Bon, après, si c'est ça ou avoir un smartphone, je préfère avoir un smartphone quand même, plutôt qu'un Nokia qui tenait une semaine. Mais effectivement, si je vivais ailleurs que dans un milieu urbain, on va dire, j'aurais pas la même vie. Voilà. Bon. J'ai pas dit province.
Des fois, c'est pas la peine de le dire.
Je comprends pas comment un mec qui est né à Toulon et qui se la joue autant parisien.
C'est incroyable.
Pour faire rire, c'est des gimmicks. Oui.
Pour revenir à ce point-là sur justement l'autonomie, où Daz disait, à ce moment, l'autonomie ne deviendra pas un argument de vente. Et on l'a vu avec le dernier Galaxy de chez Samsung, c'est un des points forts et des points mis en avant, c'est que l'autonomie était vraiment grandement améliorée, etc. Il y a souvent cette sorte de blague ou de truc de bon sens populaire qui disait « Ah, le bon vieux temps où Nokia 3310 au moins était 10 jours. » Est-ce que vous reviendrez à Nokia 3310 pour avoir 10 jours? Mais
faut pas être idiot non plus. Donc, on faisait pas un dixième des trucs qu'on fait aujourd'hui.
Donc, mieux vaut tout faire pendant un jour que se faire chier pendant 10 jours en gros.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça.
Bah, enfin, d'accord, moi, Snake, j'en suis revenu, quoi. Après.
Et moi, j'arrive encore à tenir 2 jours avec un iPhone. Hein. Je sais pas comment je fais. Et en plus, je me dis vraiment pas tous les soirs.
Réinstalle Tinder.
Non, mais j'ai killé Snapchat parce que j'avais plus de place sur mon téléphone.
Non, mais en fait, il y a un truc aussi, c'est que si par exemple, t'es dans une zone qui est bien couverte en termes de réseau, ton téléphone, il va pas chercher le signal pendant 1000 ans et en fait, ta batterie va moins souffrir.
Mais du coup, c'est quoi le problème avec les batteries? C'est juste, ça prend trop de place, quoi.
C'est la même technologie aussi, surtout.
Bah oui, ça a pas trop changé depuis 10 piges, en fait.
Et d'ailleurs, c'est la question sur laquelle je voulais attaquer Daz.
Ouais.
Puisque Daz dit que l'autonomie n'a pas évolué, mais en fait, elle a évolué. Puisqu'on a des appareils qui tiennent autant qu'il y a 10 ans. Alors qu'ils sont 10 fois plus puissants, ça veut dire qu'ils consomment 10 fois moins.
Et qu'on fait 10 fois plus de trucs.
Bah oui. Puisqu'avec l'iPhone de l'époque, ce serait impossible de faire tourner des jeux beaux comme une PlayStation 3 tout en faisant du face swap avec un système de tracking en temps réel de visage, puis se streamer. On pourrait jamais faire ça avec un iPhone de 2007. Donc l'autonomie, elle a augmenté. C'est l'autonomie symbolique qui a augmenté.
Non, mais je pense pas que c'est l'autonomie qui a augmenté. Je pense que c'est la puissance de tes puces.
Ils sont moins énergivores.
Qu'on a réussi à rendre plus puissante en consommant moins. Donc l'autonomie, c'est la même. C'est juste qu'effectivement, une puce gravée en 32 nanomètres ou en 22, ça change tout, et c'est la même chose avec ce que tu as dans ton PC, en fait.
Mais ce qui t'énerve, c'est que tout est calculé pour, en fait, garder ce rythme sacré de journée,
charge,
quoi.
Une journée, ouais. Et ça me...
Une journée de charge.
Ça m'emmerde un petit peu, ouais.
Ça vous changeait beaucoup, vous?
Tu serais prêt à payer plus pour avoir plus d'autonomie? 200€ de plus par
Est-ce que ça dépend du niveau d'autonomie, en fait, que tu me proposes. Si tu payes 200€ pour avoir une semaine complète, déjà, je me dirais, c'est quand même ultra mesquin, parce que ça veut dire qu'on amène l'autonomie au même niveau que le stockage, ce que je trouve déjà assez dégueulasse, tu vois. C'est-à-dire que tu payes 100€ de plus pour plus de gigas de place, et là, on te dit, bah, tu payes 100€ de plus, t'as une batterie qui tient plus longtemps, et si jamais les gens d'Apple m'entendent et décident de mettre ça en place, mais les gars, vous êtes des fils de pute. Parce que, non, mais parce que eux sont capables de le faire. On sait déjà que la mémoire qu'achète Apple,
comme
c'est une mémoire
élégant,
que personne d'autre connaît, tu vois, qui est vendue 6 fois le prix, mais, ouais, c'est, moi, ça me dérangerait pas pour une promesse réelle, c'est-à-dire ton autonomie, soit tu le prends en mode standard et t'as une journée comme tout le monde, ou une semaine, et pas 2 ou 3 jours, parce que voilà. Ouais, je pense que ça pourrait, il pourrait y avoir des débouchés là-dessus, en fait. Hein.
Ah, tu paierais plus cher pour avoir ça. Et est-ce que tu achètes des coques comme tout le monde, là, qui achètent des sortes de...
Ah, les coques chargeurs? Non.
C'est moche.
D'ailleurs, même Apple en a fait une officielle, ce que je trouve ignoble.
Ouais, c'est triste, quand même.
Prouve le problème,
mais ça prouve bien qu'il y a un souci.
Les mecs
ouais.
se disent vraiment genre, ah non, on va les niquer, on va pas faire de batterie mieux.
On va en faire une à part.
Ils vont se brancher tous les soirs comme ça, ils rachèteront 12 câbles.
Peut-être qu'ils sont aux limites physiques, hein.
Oui, alors, c'est la question.
Il y a peut-être une vraie raison.
Le lithium-ion, la technologie, le lithium polymère, les deux technologies majeures utilisées, on peut pas, physiquement aujourd'hui, on peut plus changer.
Surtout que déjà, on utilise des esclaves africains pour extraire le lithium. On crée quand même beaucoup de malheur dans le monde. En plus, voilà, sans limites physiques.
Sans parler d'esclaves africains, c'est vrai qu'il y a peut-être des limites physiques au support, mais d'un autre côté, tu te dis que maintenant on arrive à faire rentrer un téra de, non peut-être pas un téra quand même, mais au moins 500 gigas dans une micro SD, donc une surface de stockage qui est de la taille d'un ongle.
Ouais.
Je me dis, on peut peut-être encore être surpris par. Ça me surprend en fait que le marché de la batterie soit aussi basique en fait.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait,
pas rêver, voilà.
Ça vend des rustines pour un peu améliorer.
Ouais, il y a pas de gros trucs
À quel point vous seriez prêt à baisser les fonctionnalités ou la puissance de votre téléphone pour gagner de la batterie?
Eh bah, justement, moi, ce que je proposais comme truc, c'est d'accepter à un moment donné de stagner technologiquement. C'est-à-dire que, bon, bah, le processeur que t'as aujourd'hui, ça sera toujours le même l'année prochaine. Par contre, du coup, dans le même temps, on fait en sorte
la consommation d'énergie,
ouais,
quoi.
Et en fait, Apple a quelque part donné un petit peu raison à ce raisonnement-là, puisqu'avec l'iPhone SE, finalement, il propose quoi? Il propose un nouveau téléphone qui a les composants de l'année dernière.
Ouais.
Avec un écran plus petit, puisque c'est un écran d'iPhone 5, ce qui veut dire que normalement.
Il a une très bonne autonomie, normalement.
Voilà.
J'ai un petit éventail, alors vous le savez déjà, de bonnes pratiques pour économiser l'énergie. Donc déjà, je kill toutes les apps que j'utilise pas.
Et ça apparemment,
c'est pas la peine de le faire, en fait.
Hein. Et ben moi, je le fais.
sur Android, tu peux le faire.
Je désactive le Bluetooth.
Ouais.
J'en ai jamais besoin.
Tu réduis la luminosité.
Je, Oui, luminosité. Ça, dès que je peux, enfin, je mets le mode avion. Tu vois, quand je sais que je vais pas avoir de besoin. Et
bon, sinon, tu peux activer le mode économie d'énergie sur ton téléphone qui fait à peu près tous ces trucs là sans t'emmerder en fait.
Ouais.
Parce que le Bluetooth, typiquement le Bluetooth désactivé, ça sert à rien parce que le Bluetooth 4.0 ça consomme pas beaucoup.
Ouais, mais pas beaucoup, c'est plus que rien.
Que rien. Ouais, okay.
Et comme dit Daz, est-ce que vous avez développé du coup, enfin Fibre nous le dit, mais est-ce que vous avez développé une sorte de prévoyance et d'instinct de survie naturel comme ça avec votre autonomie, si vous, par exemple, vous savez qu'en sortie de boulot vous avez peu près tant de pourcentage, vous avez des pratiques qui consistent à, effectivement, je rentre dans le métro, je vais recevoir, donc je me mets en mode avion, etc. Vous avez des pratiques où, en fait, vous en foutez, quoi qu'il arrive, vous cherchez des chargeurs dès que vous pouvez ensuite.
Moi, les pratiques, c'est que j'ai un chargeur partout où j'ai un chargeur au boulot, j'ai un chargeur chez moi, j'ai un chargeur tout le temps dans mon sac.
Un chargeur dans chaque port.
Non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, quoi.
L'homme du 21e siècle.
J'ai acheté une batterie portable pour la Laponie, qui était USB, mon téléphone est en USB-C, donc je l'ai pas utilisé. Mais par contre, j'utilisais beaucoup l'économie d'énergie, l'économisateur d'énergie en Laponie, ouais.
Mais c'est flippant, c'est-à-dire que maintenant ça rentre dans le truc standard, c'est-à-dire que sur ton iPhone là, arrivé à 20% de batterie, t'as une pop-up qui apparaît qui te dit hey, il te reste que 20%, est-ce que tu veux passer en économie d'énergie? Je trouve ça triste.
Sur les téléphones Android, quand ton téléphone est posé plus d'un certain nombre de minutes, qu'il est à l'horizontale et qu'il est posé au même endroit, ça désactive le Wi-Fi ou des trucs comme ça, tu vois. C'est assez dingue, quoi.
Ça c'est malin.
Mais ça paraît petit truc aussi, quoi.
Mode avion, luminosité, je kill des apps, même si j'ai lu la semaine dernière que ça servait à rien, ça me fait du bien. Mais oui, j'ai changé tout ça. Mais après, encore une fois, je charge pas tous les soirs, j'ai pas appris à avoir un rythme en fonction de ça.
Ah, quand tu vas te coucher, tu ne charges pas religieusement ton téléphone.
C'est impossible, ça, Vélissa, ça n'existe pas.
C'est le seul moment où tu l'utilises pas.
Mon rythme n'est pas changé par Apple, tu vois.
Non, mais par contre, dès que tu arrives au boulot le lendemain matin, tu charges tout de suite.
Oui, il y a un câble.
Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est décaler le.
Du coup, je me fais un peu de suspense, j'ai plus de batterie, dis donc, j'ai 10%.
Tu décales la routine, mais je veux dire que tu le fasses au moment de te coucher ou que tu le fasses le matin après avoir enlevé ta veste au bureau, pour moi, c'est pareil.
Mais je pense, mine de rien, que j'utilise moins mon téléphone que plein de gens.
Est-ce que vous avez que vous avez une sorte de sentiment de tristesse quand votre téléphone il a faim et il va mourir? Non.
Non, aucune. Non, par contre.
Parce que moi
ça me stresse.
Je ne peux pas utiliser de piles. C'est une souffrance pour moi. Ce sont des animaux qui meurent. Et je peux utiliser des piles rechargeables, ça va.
Des animaux qui meurent mais qu'on ressuscite.
Ouais, voilà, c'est ça. Avec les piles, tu les tuer
ensuite.
Tu les jettes dans son téléphone.
Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, c'est des petits Pokémon, les piles.
Et est-ce qu'en soirée, vous avez pas eu l'impression que en soirée, j'avais l'impression que c'est devenu une sorte de truc classique. C'est avant, on se demandait des clopes, j'ai pas de cigarette. Puis là, c'est genre, qui a un chargeur d'iPhone ou qui a un chargeur d'Android?
C'est la première phrase que je vous ai demandé quand vous avez franchi la porte. Est-ce que vous avez pensé au chargeur ou pas?
Et qu'au lieu de dire, c'est ma dernière clope, c'est genre, non, je peux pas, je suis en train de charger, je suis à moins 20%, donc je peux vraiment pas te le prêter, quoi.
Il y a ça. Ouais, tu vois. On peut changer. Tu peux prêter ton chargeur?
Non,
je suis toujours à 20, là, en fait. Je te le file à 24, ok, ouais. Ça va.
Donc en fait, il y a une sorte de solidarité de la clope, mais du chargeur, quoi.
La question, c'est, est-ce que de la même manière qu'on se rappelle de nos jours avec un Nokia 3310 à jouer à Snake, etc., est-ce que peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, on se tapera dans le dos en disant, tu te rappelles cette époque-là, quand on était tous en galère en arrivant au bar, il fallait absolument qu'on puisse tous charger notre téléphone. Ah, qu'est-ce qu'on était cons.
Ou est-ce qu'à l'inverse, on se dira, le bon vieux temps, ça durait une journée facile, alors que maintenant, mon téléphone, il fait la réalité virtuelle, il fait tout, mais il dure 45 minutes.
C'est ce que je crains, tu vois.
Et tu vois, on aura les sortes de l'Alto Shop avec l'iPhone 7, genre, ça durait un jour, le doigt dans le nez, c'était le bon vieux temps.
Mais ça, c'est un truc qui me fait flipper, c'est justement que l'autonomie reste quelque chose de moins sexy que la course à la puissance.
Ouais.
Et j'ai peur effectivement qu'à un moment donné les fabricants fassent en sorte de dire non, mais recharger son téléphone deux fois par jour, c'est normal en fait.
Mais en fait, il y a un truc qui va être intéressant, c'est
que pour finir.
Recharger le téléphone va changer dans l'usage, vu qu'il va y avoir des chargeurs sans fil. Tu vas pouvoir avoir des bornes un petit peu partout, et quand tu poseras ton téléphone sur ton bureau, sur le bar, sur la table du tank, ça le chargera tout seul en fait. Donc en fait, tu chargeras ton téléphone toute la journée dans plein de petits endroits différents sans t'en rendre compte.
Ah d'accord, en fait ça c'est vrai que c'est un angle différent. Intéressant, c'est que le dire, on améliore la pratique, c'est en fait on rend la charge.
C'est les routes en chamallow.
c'est que du coup, on transforme tout en charge potentielle et en charge, on va dire, invisible et indolore.
C'est un axe qui sera peut-être plus facile à bosser que l'axe des batteries à améliorer, en fait.
Ouais. On verra en tout cas. Merci beaucoup. Charmion. Alors, on attaque la dernière FAQ. Notre troisième et dernière FAQ nous vient de Facebook et l'un de nos auditeurs, Eric Roger, m'a l'air un peu énervé puisqu'il nous a pondu deux pâtés sur les vidéastes sur Internet, que nous appellerons youtubeurs. Et sa deuxième question nous demande pourquoi cette fascination inlassable sur les rémunérations des vidéastes en ligne, alors qu'on ne questionne quasiment jamais les médias traditionnels sur ces questions. Pourquoi on est un peu obsédé sur combien gagnent les gens, les youtubeurs et les gens sur Vimeo, etc. Pourquoi ça nous fascine autant?
Parce que ce sont des gens et pas des
Mélissa.
Entreprises.
C'est vrai, intéressant.
Ce sont des individus et que souvent ils sont jeunes. Donc, comme ils sont jeunes et qu'on a un problème de jeunisme, d'anti-jeunisme en France, je pense qu'ils disent mais quelle est cette économie cachée? Et surtout, c'est une économie qui est jeune aussi, donc d'accord. Pas forcément définie. Donc on ne connaît pas tous les contours, d'accord. Donc forcément il y a complot.
Donc le fait que ce soit une personne de chair et d'os, tout de suite ça rend les choses plus palpables que quand c'est une entreprise un peu abstraite.
Je dirais pas que c'est le fait que ce soit une personne de chair et d'os, c'est le fait que ça aurait pu être toi. En fait,
ouais.
Donc la personne est comme toi. Ouais, bah oui, c'est clairement de la jalousie. Je veux dire, en France,
le sel.
On a un historique sur le sel, la jalousie, la délation. Bon, bah voilà. Non, mais c'est vrai. C'est tu te dis, bah le petit gars là qui a pris sa caméra et puis qui maintenant fait des millions de vues. Putain, ça aurait pu être moi, quoi. J'avais tout ce qu'il dit. En plus, j'aurais pu le dire moi-même. Je suis dégoûté. Ah, combien gagne.
Ah, donc leur côté, leur côté accessible et relatable, quand même dire les Américains, ça crée du sel.
Je pense que ça crée du sel parce que ça pourrait être toi. Donc.
D'accord, très bien. Fibre.
Presque rien à ajouter, sinon que c'est un peu le syndrome mon enfant de 5 ans pourrait faire la même chose.
Oui.
Tu sais, quand on va dans un musée d'art abstrait, et donc,
Norman. Quand on voit un graphiste d'art contemporain, on dit attends.
Voilà, mon gamin de 20 ans, il pourrait faire la même chose et il pourrait gagner les millions de Norman, tu vois. Bon,
ouais, donc là, tu rejoins un peu Daz là-dessus.
Très bien. Moi, ça va être connexe, c'est que je pense que on développe.
Moi, ça va être connexe.
Ça va être connexe avec vos idées. En fait, on dévalorise totalement le travail de ces gens-là, de ces vidéonautes, parce que on pense que ça leur prend 30 minutes à faire leur petit sketch face à leur caméra et puis salut quoi. C'est un vrai.
Comme disait un célèbre journaliste sur les blogueurs, ils travaillent beaucoup pour avoir l'air de ne pas travailler en fait.
Exactement. Ah, ouais.
Très bien. Et bien, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt pour notre émission spéciale YouTubeur.
Avec Injay Félix, Cyprien, PewDiePie. Je sais même pas comment.
PewDiePie.
Bien que pour toi.
Il y aura aussi Norman. Il y aura
Mr. V.
Il y aura
ce mec-là, mode podcast.
Il y aura Locan aussi. Il a dit qu'il venait en vélo. Il faisait un grand tour.
Locan vient en vélo encore.
Il fera un DVD ou pas de son trajet.
Sujet numéro 4.
Ne devenons pas des matérialistes du dématérialisé.
Allez, on le dit 5 fois d'affilée très vite. On le répète le plus vite possible. Des matérialistes du dématérialisé. Mélissa, qu'est-ce que ça veut dire?
Rappelez-vous, tout a commencé avec une FAQ que l'on n'attendait pas. Alors qu'elle est pourtant assez simple.
On dirait qu'elle arrive dans un nuage de fumée avec un impair, la FAQ qu'on n'attendait pas.
Imaginez, un message tombe, dans une heure, on ferme définitivement Internet. Que feriez-vous de cette dernière heure?
Vous entendez ce petit rire de Sylvain un peu...
C'est pas un rire ça, c'est un rire de panique.
Voilà.
Il commence déjà à regarder à droite, à gauche.
Alors, pour ne rien changer, Fibre a répondu tout de suite. Daz aussi, l'un sauve tout son travail sur Google Takeout, ça c'est Fibre. L'autre sauve toutes ses photos de famille sur Instagram. Mais Sylvain et moi flippions toujours.
Mélissa, Sylvain, ils savent pas, ils ont dit j'ai trop de choses à faire. Comment j'ai fait pendant une heure?
Du porn.
C'est les priorités,
ils sont
tu
en
vois.
Train de se balancer d'avant en arrière en se tenant la main.
Déjà, ils veulent pas voir le truc sur la jambe.
Ça ne peut pas arriver.
On a une petite goutte de sueur le long du front là.
Que quand t'expliques à quelqu'un qu'il y a vraiment rien après la mort, il y a vraiment rien du tout après la mort, mais pour l'éternité.
Non, mais notre cerveau n'aurait pas réalisé que c'est possible.
Attends, mais ça peut être une réponse. Tu serais peut-être bloqué en position fétale en train de te balancer d'avant en arrière pendant une heure, tu vois.
Moi, je pleure. Alors on rigolait, c'était le mois de janvier et donc c'était la fin de l'émission de Studio 404, mais en vrai, depuis janvier, je repense souvent à cette question et je revis toujours ce petit grand moment de flip, parce qu'on rigole, on est détente à la 404 SAS, mais en vrai, nous sommes tous des matérialistes, dématérialisés.
Oh.
Voilà, c'est l'apocalypse en fait, Internet n'existe plus, la petite goutte sur le front coule, et qu'est-ce qui se passe? Première phase, réalisation. Ce que nous a fait réaliser en fait cette question, parce que je vois mal en fait Mark Zuckerberg laisser sa fortune s'envoler pour je ne sais quelle raison, c'est que nous sommes attachés à des objets que nous ne pouvons pas toucher, des fichiers textes, sons, images que l'on met dans des nuages, bien content que cela ne vienne pas encombrer notre petit bureau feng shui que l'on aura donc bien pris en photo et mis sur Instagram #meta.
Évidemment.
Notre premier réflexe a été de se demander quoi sauver. Et il n'y a que toi, en fait, l'âme, qui a proposé de profiter d'Internet en diffusant en live la dernière émission de 404 ou en matant du porno.
Ou en faisant les deux en même temps.
Donc en fait, après 10 ans à utiliser et à publier sur toutes ces plateformes, à construire des journaux intimes, des albums photos, tout ça joyeusement sans jamais nous arrêter pour sauver tout ça, je me demande, mais pourquoi sommes-nous si imprudents avec ce pan entier de notre vie? On construit des relations, des amitiés entières avec tous ces outils. Il n'y a qu'à voir toutes les discussions de Studio 404 que nous laissons filer sur Slack parce que nous ne devons pas payer pour qu'elles soient archivées.
Triste, ça me rend triste.
Alors c'est vrai que tout a commencé il n'y a pas si longtemps. À l'époque, on savait pas qu'on posterait encore des statuts sur Facebook ou qu'on organiserait toujours nos anniversaires sur Facebook 10 ans plus tard. On se ruait sur tous les réseaux sociaux pour être les premiers à tester sans savoir que ce serait autant de petits cailloux qu'on allait semer. Puis les outils comme Google ou Dropbox sont venus nous rassurer, nous dire qu'on pouvait encore avoir un endroit où on gardait tout ça. On voyait mal Google disparaître, alors on a fait confiance. Mais aujourd'hui, si je dois lister en fait tout ce que je devrais sauver, il me faut 5 bonnes minutes pour prioriser. Et là, j'ai encore ce petit moment, genre, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, même si on se dit, non mais je m'en fous de ce statut Facebook que j'ai posté après la victoire d'Obama en 2008, bah en fait, pas tant que ça.
On l'aime bien en fait, on s'y attache.
Et donc, on a un peu envie de faire notre to-do list de qu'est-ce que je garderais. Donc moi, il y aurait mes mails, mes documents, les articles que j'ai publiés, mes discussions sur Facebook, mes discussions sur Twitter, nos conversations Slack, mes photos sur Flickr, mes blogs, WordPress, Tumblr, mon compte Instagram. Je commençais même à me demander si je voudrais sauver les commentaires positifs que j'ai eus sur Airbnb. Parce que ça pourrait quand même influencer l'économie de ma vie. Enfin bref.
Tu vas finir comme les vieilles personnes toutes seules avec des appartements remplis de magazines et de coupures de journaux.
Non, mais
des
trucs que les on est bien content de pas avoir ça, mais en vrai, on aimerait avoir un endroit dans notre cerveau où on se dit genre j'ai mes archives personnelles. Et au-delà de ça, surtout, moi il y a un truc qui me fait peur, c'est que il y aurait plus le reste d'Internet, quoi. Au-delà de mon Internet. Ouais. Et voilà pourquoi on avait si peur, en fait, avec Sylvain. Pas tant qu'on devait sauver ce qu'on avait nous, mais qu'on n'envisageait même pas un instant, en fait, le monde sans Internet. C'est pour ça que notre cerveau arrivait pas à marcher. Vient donc la phase 2 d'acceptation. Parce que oui, j'ai acheté un disque dur pour essayer de calmer mon cerveau et j'ai sauvegardé bien tranquillement toutes mes photos sur mon ordinateur.
T'as acheté un disque dur quasiment de manière thérapeutique.
Ah oui, vraiment. Je voulais me soulager, je voulais me dire j'ai fait quelque chose. Même si je sais que c'est aberrant parce que ça ne résout pas du tout mes autres problèmes. Mais en fait, si on regarde le réseau social qui nous excite le plus en ce moment ici, c'est Snapchat.
Ouais.
Il repose précisément sur la disparition du contenu qu'on y a posté. C'est pas anodin, en fait, parce qu'on aime bien que les choses soient bordéliques, éphémères, que ce soit compliqué même de retrouver nos premiers tweets, par exemple. On commence à se dire qu'il faudrait sauver des choses, mais en fait, je crois que c'est pas l'essence de notre utilisation d'Internet, en fait. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'être matérialiste, les mecs.
Ah, ça y est. Donc ça, c'est l'acceptation.
Ça, c'est l'acceptation. Faut arrêter d'être vis-à-vis d'Internet, d'être matérialiste, parce que, en fait, on est OK avec l'idée que les choses disparaissent. Nos conversations sur Slack, elles disparaissent. Nos snaps disparaissent. Et en fait, ce serait une grande victoire, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à être matérialiste dans la vraie vie. Il n'y a qu'à voir la dernière paire de Nike de Daz ou de Lame, ou le Fixi de Sylvain. Ce qui nous manquerait vraiment, en fait, c'est pas ce qu'on a fait ou publié sur Internet, c'est Internet lui-même, son bordel, ses milliards de possibilités, l'absurdité ou le génie de ce qu'on y trouve. Et en fait, on se reconstruit toujours sur Internet, tel que l'économie est faite, en tout cas actuellement. Il y aura toujours un service pour combler un autre service, et je suis sûre qu'il existe déjà un service qui me permettrait de sauver tout ce que j'ai fait sur Internet. Et si ce n'est pas le cas, la SAS 404 aura encore trouvé une idée de start-up à lancer.
Et comment ça s'appelle?
Sauvegardéo.
Sauvegardéo.
Archivéo.
Voilà.
Archivéo, je suis sûr que ça existe déjà.
Archivéo, c'est sûr que ça existe. Alors, Mélissa, du coup, t'étais en panique, maintenant t'acceptes, tu comprends déjà mieux ce qui
t'aide. Si je l'ai pas fait, ça fait 10 ans. Si je l'ai pas fait, c'est que je le ferai jamais. Tu le feras jamais.
Moi, je le fais en tout cas.
Tu fais quoi?
Je sauvegarde toutes mes images depuis 16 ans maintenant.
Bah oui, ouais, ça, je l'ai fait. Mais c'est aussi parce que t'es photographe et qu'il y a toute une partie de ton boulot qui dépend de ça.
Oui, mais c'est en tout cas la chose à laquelle je tiens le plus de.
Non, mais tu parles des images, des gifs, etc.
Non, des photos que je prends. Des photos,
ah, les photos que toi tu prends, non, mais ça c'est normal, c'est ton
travail. Mais même des gifs, et tout. Je sauvegarde des photos depuis 98.
Est-ce que tu pourrais, à la louche, nous dire, si tu passes 5 secondes à regarder toutes ces images, combien de temps ça prendrait? Parce que si ta réponse c'est plus que ton espérance de vie, ça sert à rien de les garder.
C'est une logique imparable.
C'est probablement plus que mon espérance de vie parce que ce sont des. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, c'était plusieurs centaines de milliers d'images que j'ai sauvegardées.
Tu te rends compte, ça sert à rien. C'est-à-dire que personne, de toute ta vie, tu ne pourras jamais les re-regarder.
Mais moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est que dans ces centaines de milliers d'images que tu sauvegardes, il doit y avoir des doublons, des triplons, des quadruplons.
Non, même pas.
Ah ouais?
Ouais, je suis assez maniaque, c'est bizarre, mais bon. Revenons à vous. Arrêtons de parler. Revenons à vous.
Non, mais ça, les usages sont intéressants. Est-ce que tu les tags, par exemple?
J'ai commencé beaucoup trop tôt pour les taguer, malheureusement. Donc, c'est fait à la main dans des dossiers. C'est-à-dire que j'ai des dossiers gifs animés, voitures, des dossiers meufs bonnes, des dossiers. C'est vraiment parce que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Donc,
Yemgour, le mec s'appelle Yemgour.
C'est intéressant parce que ton travail est plus valorisant que le contenu en lui-même.
Ah oui, c'est que la valeur de tout ça, c'est le temps que j'ai passé à archiver, ouais, à sauvegarder même ce que je fais aujourd'hui. Mais vous acceptez maintenant que des choses disparaissent? On parlait de ce Slack, donc des échanges qu'on a et qu'effectivement on peut plus trop y accéder, mais c'est, finalement c'est pas si grave. On parle de Snapchat, non, sur lequel certains d'entre vous sont très actifs.
C'est de l'instantané, donc j'estime que, enfin, ça a pas vocation à être gravé dans le marbre, en fait.
Il y a plusieurs fois où ça nous a posé problème quand même de pas avoir ces archives. Hein.
Ouais.
Ouais, enfin bon, tu peux quand même les compter. Et c'est plus un problème pratique que le fait de se dire j'ai perdu cette conversation, oui, je me sens mal.
Non, la question adapté, là, c'est plus sur le côté peut-être sentimental.
Ah ouais, non.
Est-ce quelque chose sur lequel vous êtes attaché?
Moi, je pense qu'il y a un paradoxe qui est que on accepte sur Slack et sur Snapchat que ça disparaisse. Par contre, demain, si Google dit « Ah, excuse-moi, j'ai juste supprimé ton historique Google Gtalk » ou Facebook qui dit « J'ai supprimé ton historique Messenger », bah, je pense que t'as les boules, en fait.
D'accord. Donc toi, ça dépend du service où il y a certains, t'as déjà accepté.
T'as accepté que ça disparaisse, donc ok, on joue le jeu. Mais si demain, on te supprime des trucs ou sur un service où c'était pas censé être comme ça, et ben ça, moi, ça me ferait chier. Ouais.
Par exemple, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois où vous avez perdu tous vos SMS en passant d'un téléphone à un autre? Ça vous a fait mal ou pas?
Ça ne m'est jamais arrivé.
Les SMS, j'ai appris à plus les stocker, moi.
Ouais, d'accord. Donc,
toi, ah ouais? Tu les as plus.
Les SMS, garde
plus. Moi, j'ai mes SMS depuis 2009. Hein.
C'est vrai. Mélissa, donc toi, t'as réussi. Toi, t'as gardé tous tes SMS depuis 2009. Parce que,
mais là, c'est une névrose, c'est en fait.
Non, non,
c'est malade. Moi, je suis d'accord. Que ce soit la bonne personne pour traiter le sujet, là.
Mais non, justement, elle est en plein dedans.
La meuf est clairement folle.
Dude,
non, 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 moi, j'ai jamais stocké un SMS, j'en ai rien à foutre.
Mais t'as quoi, du coup? T'as forcément des trucs stockés qui te servent à rien en base.
Est-ce qu'il y a des choses mentales que tu gardes?
Moi, j'ai des backups de machine, quand je change d'une machine à une autre.
Ouais.
Tu vois, donc tu gardes un répertoire avec, par exemple, tout le contenu de mes documents, etc.
Mm-hmm.
Sincèrement, j'ai dû accéder à ce truc-là une fois en 10 ans, quoi.
Ouais, ouais.
Mais les photos de ta famille.
Ouais,
ta
non, fille. Mais ça, c'est autre chose.
Tu les gardes?
Oui, parce que les photos, enfin, contrairement aux SMS.
Est-ce que t'as des sauvegardes de ton Instagram, par exemple?
Non, et on en parlait la dernière fois, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je fasse.
D'accord.
Pour l'instant, j'ai confiance en Instagram et je me dis que de toute façon, ils survivront à ma famille. Quoi.
Moi, je pense qu'on fait beaucoup confiance. Après, je vois mal vraiment comment ils vont killer leur
Non, mais
service,
tu vois, tu choisis Instagram, tu choisis Google, c'est pas Liberty Surf, quoi.
Mais par exemple, quand Google Reader c'est terminé, quoi, il a fallu qu'on recrée nos flux. Enfin, moi,
oui, mais là, c'est différent parce qu'ils ont enlevé une façon de concevoir l'information, tu vois, de l'accès à l'information.
Mais t'avais créé des dossiers. Enfin, moi, je m'étais fait chier à passer
du temps. Je pense que les gens
qui
leur a fait chier, c'est plus ça.
Qui a fait le truc, du coup, Feedly, ils ont explosé.
Ouais,
en
bah oui, mais pour moi, c'est plus le truc de se dire, c'était un des seuls services qui restait qui te permettait de faire de l'agrégation RSS. Et le truc disparaît, donc c'est cette façon de consommer l'info qui va disparaître, en fait.
Alors, mais sur le débat dont...
Plus que les filles en eux-mêmes.
Sur le débat dont parle Mélissa, qui est l'acceptation qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas forcément tout garder, il y a quand même un courant qui est énorme, qui est le fameux courant du cloud, dont la promesse est un stockage illimité, partout, avec un accès partout, une archive, une sorte de fantasme absolu de l'archive parfaite et totale et infinie. Donc on est quand même dans le courant de gens qui veulent sauvegarder un maximum de choses immatérielles, fibres.
Alors, moi, je m'en méfie.
Ouais.
Comme le disent les activistes anti-cloud, c'est pas vraiment anti, mais ils disent méfiez-vous du cloud. Ils disent cloud égale ordinateur d'une autre personne. Voilà, pour oui, sensibiliser les gens. Et c'était pas une entité magique dans les nuages qui stocke vos données.
C'est vrai?
Voilà.
Non, toi, tu vas avoir des problèmes, toi.
Not actually a cloud.
Qu'on s'appelle d'ailleurs en français, enfin en truc francophone.
Le nuage.
Comment?
Le nuage?
Non, c'est l'info-nuage, je crois.
L'info-nuage.
C'est l'info-nuage.
L'info-nuage.
Ouais.
L'info-nuage.
Bon.
Donc, je me méfie quand même. Donc, je fais quand même. Donc, toute ma vie, elle est sur Google Drive.
Ouais.
Et je fais quand même des sauvegardes Google Takeout.
Ça a quand même une valeur pour toi.
Voilà. Mais le fait d'avoir les deux, c'est-à-dire que la sauvegarde Google Takeout, c'est au cas où on prenne mon Google en otage ou ouais, il y a une guerre franco-américaine.
Attends, mais t'es quand même en train de me dire que tu te méfies du cloud et que toute ta vie sur oui, Google Drive.
Ah oui, toute ma vie sur Google Drive.
Totale.
Mais ce qui est bien.
Non, mais ils s'en méfient en faisant des sauvegardes.
Mais voilà, je m'en méfie au cas où il y a un problème.
D'accord.
Mais ça a vraiment amélioré ma vie parce que ce que j'ai de plus précieux, c'est sur Google Drive.
Ouais.
Ce qui fait que là, je suis parti tout à l'heure, j'ai claqué ma porte, je ne ferme jamais ma porte à double tour. Des mecs peuvent venir et voler des trucs. Je m'en fous un peu, en fait.
Ouais.
Voilà. Ça me ferait chier qu'ils viennent de chez moi, mais s'ils prennent, je sais pas, ma Xbox,
console,
je m'en
ouais,
fous, ouais, voilà.
Est-ce que comme fibre, vous accordez aujourd'hui plus d'importance à certaines choses immatérielles qu'à des possessions matérielles? Est-ce que ça vous ferait plus chier qu'on vous vole votre télé plasma ou qu'on vole 10 ans de photos ou 10 ans de MP3 cassés?
Clairement, oui. Enfin, la télé, ouais, tu la remplaces.
D'accord. Ouais.
Moi, quand j'ai scratché mon NAS avec mes gigas et mes gigas de musique iTunes, j'étais comme un fou, quoi.
Ah ouais.
Et c'est là justement que j'ai rouvert mes backups, tu vois. Ça se trouve, j'ai une trace quelque part. C'est pas possible. Et j'en avais pas, donc voilà. Maintenant, mon iTunes fait du a cappella. Mais en fait, moi, j'ai une question. C'est de la même manière que quand on déménage, en fait, et on se rend compte qu'on fait rentrer toute sa maison dans un camion de 10 mètres cubes.
Ouais.
Et tu vois, c'est un peu déprimant de se dire toute ma vie tient dans une remorque.
Moi, j'ai l'impression surtout que ma vie prend beaucoup plus de place que ce que je pensais. Mais...
Bah moi, c'est le contraire, en fait. Quand j'ai déménagé, que j'ai vu que j'ai pu faire mon déménagement à base de cabas Ikea et Auchan, ouais, tu vois, je me suis dit putain, mais c'est ça la vie, en fait. Je peux déménager dans des sacs en plastique dégueulasses.
Bah, t'as de la chance, hein, qu'en fait, tu pourrais.
Et je me dis, en fait, quelle serait votre réaction quand vous vous rendrez compte qu'en fait tous vos trucs à sauvegarder, donc hors image, parce que ça, ouais, ça prend de la place, mais par exemple tous les textes que tu as écrits, etc. Finalement, ça tient dans 512 mégas, donc tu peux sauvegarder tout ça sur un CD de barre.
Et encore, moi personnellement, parfois je traque mes textes pour les effacer parce que j'en ai trop honte. Je veux pas qu'il y en ait de traces.
Mais par exemple, un texte sur Google Doc, ça prend 5 kilos, tu vois. Ouais. C'est ridicule, en fait.
Ouais, mais moi j'ai plus confiance. Moi, c'est l'inverse de Fib. J'ai plus confiance dans le cloud que dans un Western Digital Black Caviar
ouais, qui
peut cracher.
Qui a une vie finie, ouais, de base. Ouais, clairement.
Même un CD que je peux égarer. Je sais que dans le cloud.
C'est pour ça que sauvegarder sur par exemple des disques durs, je trouve ça con, en fait, parce que c'est encore moins fiable. Ah,
mais ça veut dire quand même que vous êtes tous, quand même comme Mélissa, vous êtes quand même dans une optique de sauvegarder vos productions immatérielles et que ça, c'est important pour
moi. Moi, je sauvegarde pas personnellement, je sauvegarde pas par exemple mes chroniques, etc. Je les sauvegarde pas, je les laisse sur le drive. Sur Google Drive.
Ouais.
Effectivement, si demain le truc crash, je vais avoir les boules. Parce que là, oui, actuellement, je me dis, bon, je peux y accéder quand je veux. Mais je suis pas encore au stade de parano, de fibre, de se dire, on sait jamais, Google peut se faire racheter par la Corée du Nord demain.
Hein, c'est un bouton, Google t'appuie et t'envoie.
Ouais, mais j'ai même jamais envisagé le truc. Je me suis dit, ouais, bah, c'est là, quoi.
Mais enfin, je dirais que c'est comme un décès dans la famille. C'est-à-dire, ouais, on n'est pas confronté à l'idée de la mort tant qu'on n'a pas un décès.
Ouais.
Et je pense que, je sais pas si ça vous arrive, mais à un moment, vous avez votre disque dur qui crash, ah, irrémédiablement. Oui. C'est mort.
Ouais.
Et une fois que c'est arrivé, bah, vous acceptez l'idée et finalement, bah, vous êtes presque à perdre une fois de plus tout ce que vous avez téléchargé et puis vous changez de PC et puis voilà.
Quoi. Ouais, la vie est un recommencement, en
fait.
Voilà.
C'est effectivement l'acceptation. Et moi, je pense que quand on l'a fait une fois, c'est plus facile après. Par exemple, le jour où j'ai delete tout mon historique SMS, je me suis dit, ça me fait chier quand même. Et maintenant, dès que je change de téléphone, je m'en fous, quoi.
Ah ouais, donc comme Mélissa, enfin,
non, plus loin que Mélissa.
Toi, t'en es pas encore là.
Il y a des jours où je me dis, genre, vas-y, efface-les. Et je le fais pas.
T'y arrives pas.
Non, j'y arrive.
Et tu les relis
pas.
Tu te fais un petit bouquin avec ou...
Genre, il m'est arrivé de relire des échanges SMS de 2009. Ça m'est déjà arrivé.
Moi, je trouve ça intéressant.
Ouais, je trouve ça bien. Ouais.
Par exemple, dans mon fameux répertoire de toutes les images du web que je sauvegarde depuis 16 ans, c'était marrant de voir ce que j'aimais à l'époque, qui est complètement kitsch aujourd'hui, de voir la qualité de l'image de l'époque qui, ouais, est une sorte, ouais, de VHS aujourd'hui. Enfin, c'est
des vrais albums photos, quoi. Et des échanges SMS, c'est comme quand tu parles de jalons sur Instagram, t'as des jalons dans des relations, dans des amitiés, et tu vois des échanges et des textes qui disent tout de ça, quoi.
Mais est-ce que, en plus, c'est pas vain de vouloir faire ce travail d'archiviste, alors que l'internet, ça devient une archive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quoi bon avoir un DVD d'un film alors que vous pouvez le voir en streaming?
Ah, c'est ça.
Bah oui, j'achète plus de DVD.
C'est une grande question.
Là, on revient à un des débats qui est un peu mitoyen de la chronique de Mélissa, c'est qu'on est moins dans une économie de la propriété que de l'accès. Et qu'effectivement, peut-être qu'on tient moins à ces musiques parce que 90% de ces musiques sont sur Spotify ou un autre service.
C'est exactement, plutôt que de devenir fou et de commencer à ruiner ma maison.
Oui.
Je me suis rendu compte qu'en fait, les trois quarts de ce que j'avais perdu comme musique iTunes, je le retrouvais en streaming sur Spotify, quoi.
D'accord.
Donc, ça m'a aidé quand même à accepter l'idée que,
je veux dire,
dans un
monde
sans Spotify, ah ouais, je serais devenu fou, j'aurais hurlé, quoi.
Si ça se trouve, Google Images, dans 3 ans, il aura l'intégralité de ton archive mieux taguée, avec des réseaux neuronaux qui seront exactement retrouver le truc.
Ouais.
Et tout ton travail, finalement, il aura été
20.
Mais le truc, c'est que Google Photo le fait déjà. Tes images stockées sur Google Photo, il repère les visages. Donc, quand tu tapes visage dans le moteur de recherche, ouais, il va te sortir que des portraits. Si tu tapes chien, il reconnaît les chiens.
Non, mais on pourrait même taper image qu'aime l'âme ou image qu'aimait l'âme en 2003.
Ouais.
Et il va retrouver, il va même pas les savoir. C'est-à-dire, il les déduira de ton profil, quoi. Donc,
quand on en arrivera là, ça sera vraiment creepy. En fait.
Tu sais à quel point on est proche de ça.
Comment draguer l'âme en lui envoyant une image?
Bon, dernière question. Si vous devez garder 10 fichiers. Allez, non, 5 fichiers, 10 fichiers, c'est facile. 5 fichiers, non. Images, musique, texte, SMS, pas une archive de SMS, un SMS, mais.
Oh non.
5 fichiers individuels.
C'est chaud, ouais, c'est chaud.
Mais personnel, pas professionnel.
Alors ouais, cinq fichiers. Ma déclaration d'auto-entrepreneur.
Cinq fichiers auxquels vous tenez vraiment.
Putain, mais genre, un mail, c'est un fichier.
Un mail, c'est un fichier. Une chanson, c'est un fichier. Sachant que vous n'y avez pas accès autrement. Effectivement, Daz me dit, effectivement, je vais pas mettre de musique parce que j'ai Spotify. Non, non. Si vous étiez sur une île déserte, voilà, le fameux jeu sur une île déserte, quel livre emporteriez-vous là? Quels seraient les cinq fichiers que vous emporteriez?
Moi, ça serait quatre chansons, je pense.
Ouais.
Et une photo de, des gens que j'aime.
D'accord. Oh, c'est beau, ça.
Wow. Quatre chansons et une photo des gens que t'aimes.
Ouais.
Et pas l'inverse.
Non. Mais non, parce que gens... sur une seule photo, tu peux mettre tous les gens que t'aimes.
J'imagine Daz.
Tous les gens que t'aimes dans une photo.
Ouais.
Ouais, bah, ça rentre.
Ça, j'ai pas encore fait cette photo.
En train de regarder une photo sur son île déserte en écoutant des PNL. Putain. Jusqu'à la fin de ses jours.
C'est tellement bien.
Mélissa, je te garde pour la fin. Sylvain, 5 images que tu. 5, pardon, fichiers.
Je sais pas si je vais arriver à 5, mais déjà, je pense que mon mémoire sur les jeux, sur le jeu.
Ouais.
J'ai écrit en 2012. Ça, c'en est un qui est très important. Ensuite, des photos aussi, je pense. Pas mal, ouais, de photos, des gens que j'aime.
Pas mal, ouais. Il te reste 4 trucs. Hein, donc
il m'en reste
4.
Une ou deux photos.
Et en fait, ils vont tricher, ils vont dire une photo qui est un montage de 320 photos.
Un poster.
Et un morceau de musique qui est en fait un mix de 24 heures.
Mais grave. Et attends, ouais, il m'en reste deux, là.
Ouais.
Qu'est-ce que j'emporte comme fichier?
Un mème? Même pas un truc de la culture web, rien.
Bah, je pense pas, non. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça.
Donc là, vous restez sur des trucs purement perso et pas d'internet.
Ma sauvegarde d'élite.
Ça sauvegarde d'élite, ok.
Tu l'emportes, si jamais, tu l'emportes, ouais, toi, Daz aussi.
Bah, la tienne doit peser 2 kilos que t'es pas forcément.
C'est pas énorme, la mienne. Attends, je me suis remis. Non, mais même une sauvegarde de jeu, je pense pas. Peut-être des films de vacances aussi. Mais ouais, pareil, du coup, je les monte tous ensemble.
Ok, on parle là-dessus. Fibre.
Moi, soit je. Enfin, je peux pas.
Bah, non, t'es obligé.
Non, mais. Alors rien, soit rien.
D'accord, soit rien.
Soit je peux parce que, enfin, comment dire.
Tu veux pas avoir à choisir entre tes enfants, quoi.
Ouais, non, mais j'ai aucun attachement. Enfin, je peux tout perdre mes fichiers, mais mes projets en cours, dont je veux pas perdre les fichiers qui sont l'objet de mes sauvegardes. Un projet, c'est, je sais pas, 400 fichiers doc, tu vois. Donc je peux pas en choisir 5. Donc.
C'est pour ça que je te pose la question.
Voilà, non,
parce
non,
que
bah,
si
tu
veux pas chier,
dans
ça serait rigolo,
aucun,
Fibre.
Dans ce cas-là, aucun.
Ok, voilà. Fibre. Non, c'est bien. Ça peut être intéressant. Aucun.
Est-ce que les contacts, ça fait, c'est des fichiers aussi?
Bien sûr, une fiche VCF.
Ok.
Ouais, je laisserai pas vous en sortir les cocos.
Attends, hein, pour moi, attends pour moi. Je garde mon fichier, mon tableur Excel de tâches.
Ah.
Et mon tableur Excel de YouTuber influent. Voilà.
Mais il y aura plus ça.
Il y aura plus YouTube, il y aura plus rien.
Obsolète. Je m'en fous, j'en ai trop chié pour le faire.
Il regardera les couleurs comme ça, tu sais, comme les gens fous qui regardaient leur mur.
Non, j'ai un fichier de 2000 journalistes jeux vidéo, du monde entier. Donc, ça m'a pris 4 mois de travail, donc je le garde celui-là.
Ok. Et Mélissa, donc, pour clore.
J'ai un tableau Excel quand même. Enfin, pas un tableau Excel, un document Word avec, ouais, plein de numéros, donc je pense que je prendrais ça.
Ouais.
Voilà. Après, je pense que je prendrais...
Elle est en douleur. Elle est tellement souffrante.
C'est trop dur, quoi. Je pense que je prendrais un ou deux échanges mail. Et après, genre... trois vidéos parce que les photos il me faut la version, ouais, il me faut la version vivante de la photo, quoi.
D'accord,
voilà,
trois vidéos, donc que des choses personnelles pour vous, rien, ouais, de la culture internet.
Non,
parce que c'est toi qui l'as créé, la culture internet.
Ah, mais je sais pas. Très bien, j'ai hâte de savoir ce que les auditeurs garderont. En tout cas,
Studio 404, l'émission de société numérique.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On s'est bien amusé. On a parlé donc d'élégance, on a parlé de gamification, on a parlé d'autonomie ou de manque d'autonomie. Et donc, nous avons aussi accepté d'abandonner tous nos fichiers derrière nous et de vivre nus d'amour et d'eau fraîche et d'autonomie. En tout cas, on attend de vos réactions sur chacune de ces chroniques et voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Daz, Mélissa, Fibre et Sylvain. Et on se retrouve, nous, en tout cas, dans quelques jours pour l'enregistrement public de notre prochaine émission. On remercie en tout cas nos amis du Tank qui, comme d'habitude, nous accueillent. C'est royal, on a un petit panier de fruits, là on est au chaud. C'est toujours vraiment, vraiment un plaisir. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao.
Au revoir. Bye. Bye.